une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plant.
Yo.
On se trouve en ce moment dans l'atelier. Il y a nos trois espaces ici au Studio SF. Un espace qui est disponible pour location. Ça vient avec la technique, ça vient avec le technicien, ça vient avec le matériel. On s'occupe de tout, vous n'avez qu'à penser à votre contenu. Si vous voulez plus d'infos, écrivez-nous au info@commercialstudiosf.ca. Cette semaine,
c'est le grand retour de Oli avec Anne-Marie. C'est un podcast que vous avez écouté, que vous avez aimé, qu'on a fait il y a un an ou presque, un petit peu plus en fait, ici au studio la première fois qu'il est venu nous voir. Ça avait été super cool, on avait parlé de script sexuel, on avait parlé de relations monogames, couple ouvert. Aujourd'hui, on a abordé plein de différents sujets, des nouveaux sujets, les schémas sexuels, le sexe anal. Et,
le sexe tantrique.
Ça, c'est un...
Juste le tantrisme.
Le tantrisme, intéressant.
La différence entre un orgasme et un orgaste.
C'est tout apprendre, c'est quoi ces termes-là, c'est quoi ces différentes pratiques-là avec Oli Canmarie, une invitée de podcast en or, elle est préparée, elle connaît son sujet, elle est à l'aise, elle est éloquente, elle est drôle. C'était vraiment un grand plaisir. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on la voit, la petite Anne-Marie.
Non, je pense pas. Sans plus attendre, on va aller remercier nos commanditaires et on vous laisse au podcast. Fait que bon podcast. Anne-Marie.
Allô.
Salut.
Peux-tu jouer à mes écouteurs?
T'es pas obligé. Ouais.
On va y aller pour le style podcast.
T'aimes t'entendre parler. T'aimes le son de ta voix.
Ah, si j'aime entendre parler.
T'es-tu habitué avec ton son de la voix?
Ouais, pour vrai. Ouais. Ben là, à m'écouter des podcasts, des stories.
Des stories sans arrêt.
TikTok, hein. Ouais.
Ouais. Hey, ça fait un an à peu près.
Ouais, ça fait un an
que t'es venu la dernière fois.
Ouais.
Ça comment va ta vie?
On a-tu deux heures?
Ouais, ben écoute, oui, justement.
ça va super bien. Super bien. Beaucoup de choses se sont passées dans la dernière année. J'ai eu une ascension assez rapide dans la première année de mon entreprise. On va dire qu'on est comme dans la deuxième. Regarder en arrière, là, c'est comme regarder dans une tornade, là, littéralement. Donc, il y a comme plein de choses qui ont été mises en place, plein de projets que j'ai développés, des employés, plein de choses qui sont en train de se réaliser. Donc, je suis vraiment, vraiment fière. On est en train de percer le monde de l'éducation sexuelle au Québec.
Ouais. Oui, c'est marrant. Je me souviens justement, tu sais, quand tu étais venue sur le podcast il y a un an, tu étais aussi allée sur le podcast des filles de sexe oral, puis tu étais comme partout, là, tu sais, on dirait que genre...
Ouais.
Je sais pas comment tu faisais au niveau énergie puis niveau emploi du temps, mais on dirait que tu faisais tous les podcasts, fait que tu sais, ça paraît que tu as travaillé fort pour comme construire ton affaire, là, tu sais, puis que maintenant ça paye, là, tu sais.
Ouais, ben je me rappelle Nicole, je pense qu'on se voyait à toutes les semaines dans ce temps-là.
Il y a eu un genre, je me rappelle, un genre de trois semaines où c'était comme venu six fois, je pense, de quoi de même là au studio, dans l'autre local avant. Ouais. Puis étais-tu revenu dans ce local-ci?
J'avais fait un podcast dans la nouvelle salle, mais là c'est la première fois. D'ailleurs, superbe les locaux, vraiment.
Merci.
Puis comme on disait tantôt, le podcast que tu avais fait avec nous, ça a été un de nos plus écoutés de l'année 2021.
Ouais. Fait
comme de quoi que c'est un sujet qui attire tellement la curiosité, puis les gens veulent en fait apprendre puis entendre parler de sexe, de relations, parce que c'est universel en fait.
Ouais, ben tous les êtres humains ont une sexualité, même l'absence de sexualité est une forme de sexualité. Puis je pense que il y a tellement de mythes qui existent puis qui persistent, que les gens sont juste tannés, ils veulent juste comprendre leur corps. Puis d'ailleurs, c'est les sujets les plus recherchés, tu sais, la compréhension du fonctionnement corporel, physiologique, biologique. On parle d'érection, d'orgasme, de point G, de clitoris. On parle d'éjaculation féminine. Les gens veulent juste comprendre comment leur corps fonctionne. Puis cette information-là n'est pas accessible nulle part. Mm-hmm. Notre plus grosse source d'éducation, c'est la porno.
Ouais.
Donc, vers qui tu tournes, vers quoi tu te tournes. Dans les écoles, on ne parle pas de ces choses-là. Puis si on en parle, on n'en parle pas dans une perspective où on peut inclure le plaisir. On va te faire peur avec les ITSS, on va te faire peur avec les grossesses non désirées. On va te faire peur avec la première fois, là, ça va te déchirer, ça va saigner, puis tu vas perdre quelque chose, alors qu'on gagne une expérience. Là, je veux dire, tu t'épanouis en tant qu'être humain. Donc, il y a peu de sources d'éducation à la sexualité. Puis je pense que c'est ce qui fait un peu le succès aussi de la page au lit avec Anne-Marie, puis des podcasts que je vais que je fais. Puis,
ben oui, vraiment.
Ce que tu viens de dire là l'espèce de... d'éducation sexuelle par la peur, là. Moi, c'est exactement mon expérience. C'est précisément ça. Là. C'est genre, à un point tel que comme tu veux pas avoir de relations sexuelles à cause que t'as trop peur d'attraper quelque chose, là, à cause que ce n'est que de ça qu'on parle. Il me semble, moi, au secondaire, là, il me semble que ce n'était que ça.
Au secondaire, les cas d'éducation sexuelle, c'était juste l'ITSS.
Ouais. C'est la pire chose de la sexualité. Là. Ouais. C'est comme la pire partie. Là.
Oui, puis c'est même pas la plus grande partie.
Non, c'est ça, exact.
Puis je me rappelle, il y avait des images horribles de stades très avancés de syphilis et de gonorrhée avec des espèces de déformations du visage tellement que tu étais avancé dans ta syphilis. Puis parce que, oui, ça existe. Ouais. Mais je veux dire, on peut-tu parler du pourcentage de gens qui ont du plaisir, qui vont s'émanciper, qui vont s'amuser et se découvrir à travers ça, tu sais? Hey, le condom sur une banane, tu sais, je veux dire...
Sur l'avant-bras complet, notre prof de morale, je me rappelle tout le temps. Là. Ouais. Elle avait dit, elle voulait prouver aux filles que... les filles, si votre chum, il dit que c'est trop serré, là, ben regardez ça. Puis là, elle avait mis un condom jusqu'à son coude, puis elle avait dit, si votre chum, il est amanché de même... s'il est vraiment comme une grosse graine, là, tu sais.
Ben, voyons donc, je meurs.
Tu sais, moi, je regarde, c'est comme t'es là, t'es comme en sondage 3. C'est genre, qu'est-ce que je regarde?
Pourquoi la prof de morale?
Ouais, la prof de morale en plus, là, c'est comme, pourquoi c'est à elle qui revient la charge de nous parler de ça, là, tu sais?
Ben, c'est exactement ça. Puis moi, ce que ça m'amène à penser, c'est que, elle a-tu vécu une expérience négative, elle, avec ça, puis elle a projeté ça dans son éducation qui, on devrait pas... Tu sais, je parle pas de ma vie sexuelle sur les réseaux sociaux, là, c'est très rare, puis si j'en parle, c'est parce que je sais que ça l'amène à un point positif.
Tu vas au-delà de juste ton expérience à toi. Là.
Exact. C'est important de rester neutre dans cette éducation-là, puis de pas transmettre... Puis c'est difficile parce que on est éduqué, on est programmé de différentes façons selon notre culture, notre religion, selon de où on vient, selon nos parents, selon bien des affaires, tu sais. Fait que c'est dur de pas amener des jugements de valeur dans l'information que tu transmets, mais ça, c'est clairement une expérience qu'elle a vécue puis qui était comme, là, la gang, là, ça vous arrivera pas.
Arrêtez de les croire, là, ils vont vous bullshiter.
Hey, un condom sur un avant-bras, tu sais, elle aurait pu le mettre sa tête rendue là, tu sais, c'est... Ouais,
comme Alexandre Champagne quand il allait dans les lives de...
Il faisait son personnage,
il mettait son condom juste en dessous de son nez, puis là, il soufflait, puis ça gonflait. Là.
J'ai déjà fait ça.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé?
Dans un TikTok. Ouais, pour prouver un point, moi aussi, mais c'était juste parce que je trouvais ça drôle, là.
Ouais.
Mais oui, effectivement, le monde sont comme... Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai qu'il y a cet argument-là qui revient souvent. L'histoire de « Ah, c'est trop serré, ah, je sens rien, tu sais. »
Ouais, moi, j'ai eu, ben, probablement à cause de ça, là, à cause de la peur bleue qu'on m'avait mis des ITSS, j'ai pas eu beaucoup de relations sans condom, mettons. Là. Ça n'a jamais été un problème non plus, tu sais, d'en mettre un. Là. Ça n'a jamais été un issue. Là.
Wow.
Jamais dû me trouver des raisons. Jusqu'à ce que je prenne un peu d'âge, puis que là, je décide de comme faire, bon, ben, on va passer cette étape-là plus rapidement dans un genre de... dans la game de dating, mettons. Ouais. Tu sais, de faire ça intelligemment, mettons.
Quand tu dis passer l'étape plus rapidement, excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, d'avoir la discussion.
Tu sais, sans nécessairement aller passer un test, les deux, tu sais, puis attendre les résultats, d'avoir la discussion de faire avec, comme là, genre, ça fait 3-4 fois, puis comme, what's up avec ça, mettons. D'avoir une conversation honnête, là, puis de faire confiance à l'autre personne aussi. Même si, I guess que techniquement, faudrait que tu te fasses tester les deux, mais ça, tu sais, encore une fois, c'est genre... C'est le réflexe que j'ai à cause de ce que je me suis fait dire là, quand j'étais au secondaire. Là. C'est genre ultra, ultra safe là, de faire ça, mais genre, en tout cas.
Mais,
je veux pas donner de conseils à personne. Loin de moi l'idée de genre m'avancer dans ce dossier-là, sauf que...
Ultra safe, le polar, tu parles?
Non. Ben non, moi, c'était plus dans le sens pour les maladies, les infections transmises. Oh. Là, ouais.
Mais tu sais, c'est un bon point que tu amènes parce qu'il y a des gens qui vont faire ça, tu sais, la première fois, ils vont se protéger.
Ouais.
Puis là, quand ça fait justement 3-4 fois, ils sont comme, ah, on se fait confiance maintenant. Ouais. On est rentré dans notre intimité, on sait on est qui, on enlève la protection.
Ouais.
Mais c'est quoi la différence entre la première puis la 3-4e fois?
Ben, il n'y en a pas. C'est juste que tu as une conversation.
C'est ça.
Juste que tu as une conversation puis que tu acceptes de faire confiance à l'autre personne, mettons.
Ouais.
D'avoir que l'autre personne a une sexualité saine puis qu'elle en prend soin, mettons. Mais je comprends qu'il n'y a aucune différence entre la première fois, sauf que la première fois, tu ne connais pas l'autre personne. Tant que ça.
Oui. Non, mais clairement, puis tu sais, je te challenge pas là-dessus.
Non, mais
il y a vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont penser ça. Mais je ne sais pas si je vous ai déjà posé la question, mais est-ce que vous savez c'est quoi le symptôme le plus commun de toutes les ITSS, les infections transmises sexuellement et par le sang, ever, là?
Le symptôme
le plus commun, là, on les rassemble.
Qu'on peut voir ou qu'on...
Le symptôme le plus commun.
Mais je sais pas.
C'est une question piège. L'absence de symptômes.
L'absence de symptômes.
Chris, man. Bonus, là.
Ben, j'imagine.
Ouais.
Fait que ça pue pas, ça gratte pas, ça chauffe pas, ça coule pas. Donc... souvent, on n'aura pas de symptômes quand on a une infection transmise sexuellement. Donc, c'est important de se faire tester quand on a... Il faudrait le faire comme à tous les partenaires.
C'est ça.
Mais là, tu sais, je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça.
Ouais.
Mais c'est cool maintenant parce qu'avant, c'était le Q-tip, là, dans l'urette. Puis maintenant, c'est
moi,
juste...
ça n'a jamais été ça.
Non?
C'était de l'urine, là. C'était genre...
C'est ça. C'était pipi dans ça.
Ouais.
Moi aussi, le Q-tip, je sais pas
comment. Le Q-tip dans l'urètre, man. Ça se peut que ça te décourage d'y aller, là.
Ouais,
j'ai pas de pénis, puis ça me fait mal.
Ouais, c'est ça.
C'est comme...
c'est pas parce qu'il n'y a pas de symptômes qu'on n'est pas contagieux. Right.
Exact. Mm. Exact. Et puis ça, c'est vraiment... On va parler, mettons, d'herpès.
Ouais.
Y a des gens qui sont comme... Moi, j'ai jamais eu de manifestation ever de toute ma vie. C'est sûr. J'ai jamais été avec quelqu'un qui avait des manifestations, etc. Puis je suis comme, ouais, mais ça veut rien dire. Non, mais je te le dis, là, moi, il n'y a jamais... Je comprends, mais on est 70% de la population à avoir le virus. Mm-hmm. Puis...
70%?
C'est 70%, ouais. Fou. Puis génital, c'est 1 personne sur 7 au Canada.
OK.
Donc, c'est beaucoup de monde.
C'est beaucoup de monde.
Puis jamais tu vas parler à quelqu'un qui a contracté l'herpès, puis que cette personne-là va dire, j'ai frenché un feu sauvage.
Mm-hmm.
Il n'y a jamais personne qui va dire ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se transmet de façon insidieuse, sans le savoir. Puis tu peux pas savoir c'est qui te l'a transmis. Parce que ça se peut que tu l'aies en dedans de toi depuis 10 ans.
Ouais, puis que là, il se réveille. Là.
Voilà.
Ouais.
Donc, mais tu sais, à la fin de la journée, ça tue pas personne.
Non, ça change rien.
Ouais. Puis quelqu'un qui, mettons, va avoir un résultat positif d'herpès, c'est quasiment mieux que quelqu'un qui le sait pas. Parce que cette personne-là contrôle ses poussées si elle en a, parce que c'est très peu de gens qui ont des manifestations physiques.
Mm-hmm.
Fait qu'elle, elle va contrôler ça avec peut-être la prophylaxie, une prise de médicaments tous les jours. Donc, puis elle a 1% de chance de le transmettre. Puis si je te dis, OK, faut t'opérer demain matin, puis t'as 1% de chance de pas te réveiller, est-ce que tu te vas opérer?
Ouais.
Mm-hmm. Fait que ça en revient à la même chose, tu sais.
Ouais. Ah ouais,
puis,
hein?
Puis toutes les discussions autour du condom, tu sais, puis... Dans les mouvements, tu sais, MeToo, pis ça, pis les témoignages qu'on voyait souvent, c'était des affaires de condom. Vraiment souvent, de le gars, il a enlevé son condom sans que je le voie, sans que je le sache, ou il insistait vraiment pour me prendre des condoms. Ça m'a surpris à quel point. Puis ça m'a aussi fait réaliser à quel point c'est important de respecter ça, mais tu sais, que ça soit comme une base puis une norme, puis ça, qu'on n'ait pas besoin de devoir défendre ça ou devoir questionner ça à chaque fois. Là.
Ça s'appelle du stilting.
Ouais.
C'est une pratique qui est vraiment très, très tendance chez les jeunes. Donc, de commencer d'entamer le rapport sexuel avec le condom puis de l'enlever sans que la personne s'en rende compte pendant le rapport sexuel. Mais là, c'est comme t'enlèves une partie du consentement quand tu fais ça parce que la personne avait consenti à certaines conditions qu'elle aurait peut-être pas consenti au départ s'il n'y avait pas eu de condom.
Moi aussi, j'avais été surpris de voir à quel point ça revenait souvent dans tous les témoignages qu'on voyait, là, dans les témoignages anonymes, là, ce genre d'affaires-là sur des... C'est moi, je veux dire, of course, puis là, je dis ça, puis croyez-moi sur parole, là, tu sais, ou pas, là, vous faites ce que vous voulez, sauf que, genre, moi, c'est même pas quelque chose qui m'est déjà traversé l'esprit, là, tu sais, de faire ça, là. Mais I guess que c'est pas tout le monde, qui pense comme ça, là.
Mm-hmm.
Sur ta plateforme, dans le fond, là, explique-moi qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est. Puis les gens qui nous écoutent aussi, là.
OK. Là, tu parles de mon Instagram, tu me parles de...
Non, ta plateforme d'accompagnement.
Ouais. Ouais. Fait que, dans le fond, j'ai un accompagnement qui s'appelle Réponse sexuelle.
Ouais.
Puis sur cette plateforme-là, j'ai à toutes les semaines des ateliers qui sortent sur des sujets pour lesquels je me fais poser constamment les mêmes questions.
Des ateliers que toi, tu donnes?
Oui. Okay. Maintenant, j'ai de l'aide. Là, j'ai des sexologues qui m'aident à offrir les ateliers. Ça fait un an là, que la plateforme existe. Donc, on a parlé du désir sexuel, de la communication. On a parlé de l'orgasme, 2 mois de temps, parce que les gens ont beaucoup de questions sur l'orgasme. On a parlé de l'anatomie. L'anatomie, parce que les gens ont besoin de comprendre leur corps. Si tu veux avoir des orgasmes, ça, c'est quelque chose qui me surprend tout le temps. Tu sais, les gens ne se sont jamais regardés dans un miroir nu. Puis là, je dis les gens, c'est surtout les personnes ayant un vagin, là, les femmes. Ouais. Puis après ça, ils s'attendent à avoir un orgasme. Puis je me dis, mais il faut comme que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'il y a là, puis le voir, tu sais. Donc, c'est plein de... On fait le mois du tantrisme en ce moment pour avoir une meilleure connexion avec soi, avec sa partenaire. Donc, à tous les mois, à toutes les semaines, on sort des ateliers. Ouais.
On va revenir sur ça, continue.
Ouais. C'est ça. Puis il y a des outils introspectifs. Fait que dans le fond, tout ce que je faisais en consultation, je me suis dit, les questions reviennent dans toutes mes consultations. Ils reviennent sur Instagram, ils reviennent dans les podcasts. Fait que pourquoi pas offrir les outils à un coût vraiment très moins élevé. J'invente des mots aujourd'hui, j'aime ça. Ça va bien. C'est vraiment ça. Tu viens me voir en consultation, je te donne des outils. Ben, au lieu de venir me voir en consultation, je t'éduque sur le sujet parce que selon moi, il y a un très grand pouvoir de transformation à travers l'éducation. Donc, c'est ce qui se passe sur cette plateforme-là. Et il y a des femmes qui ont atteint l'orgasme pour la première fois grâce à cette plateforme-là, une reconnexion avec
les partenaires. Ça doit être quand même gratifiant là, quand tu reçois un message de ça. Puis, je veux dire, mettons, des femmes dans trentaine, quarantaine?
Entre 20 et 40, c'est surtout ces gens-là que je rejoins.
Puis qui atteignent l'orgasme pour la première fois, je veux dire, c'est life-changing.
Oui.
Imagine, c'est fou quand même juste de penser que, tu sais, nous, pour des hommes, c'est plate, mais genre, c'est même pas... Ben, c'est plate puis c'est le fun en même temps, mais genre, c'est même pas une question, là, tu sais, on atteint l'orgasme, on a tous déjà atteint l'orgasme, mais on sait comment atteindre l'orgasme.
On atteint l'orgasme en dormant, là.
Ah ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est difficile à atteindre
qui est mythique.
Mais de penser que pour certaines personnes, puis surtout des femmes, que ça soit comme quelque chose qu'ils ont jamais vécu ou de aussi difficile ou inaccessible, c'est quand même... C'est fou.
C'est fou, mais hein.
Ouais. J'ai fait une chronique ce matin à la radio sur justement les rêves érotiques et les orgasmes nocturnes. C'est 80% des hommes qui vont avoir des orgasmes nocturnes versus 40% des femmes.
Okay.
Donc, il y a quand même un gap même là.
Dans le sommeil.
Oui. Mais j'ai l'impression que, tu sais, l'homme, l'organe est à l'extérieur du corps. Puis les femmes, c'est plus comme le clitoris est majoritairement interne, ce qui fait qu'il est moins facile d'accès, puis on a plus d'incompréhension par rapport à comment le stimuler. Donc, j'ai l'impression que ça joue un peu contre nous, finalement.
Oui, parce que probablement, de mon expérience, les rêves que je fais, c'est des rêves vraiment graphiques, puis je sais exactement, mettons, qu'est-ce dans la vie, mettons, mon conscient et mon subconscient est au courant de quoi faire pour atteindre l'orgasme, mettons. Fait que quand je dors, c'est sûr que mon rêve s'en va directement dans cette direction-là. Mais j'imagine qu'effectivement, quand t'es moins au courant, tu sais pas trop comment ça marche, peut-être que le rêve, il fait juste reproduire des idées que tu te fais ou des idées que t'as vues, puis des trucs qui, au final, t'amènent pas à bon port, là.
À bon port. J'adore.
Tu parlais du mois du tantrisme. Là.
Ouais.
C'est quoi le tantrisme? C'est quoi le sexe tantrique? Moi, de mon point de vue externe, un gars qui connaît fuck all ça, là, c'est Sting, le chanteur de Police, qui est capable de comme fourrer pendant des heures et des heures et des heures sans jamais perdre son érection, puis en atteignant l'orgasme sans éjaculation, puis comme c'est quoi?
Est-ce que on est très loin ou
est-ce qu'on est très loin avec l'histoire de Sting ou ben c'est un peu ça là?
C'est un peu ça.
C'est terrible, ça.
C'est terrible.
C'est... Mais parce que Sting, c'est comme c'est documenté, c'est vrai là, genre c'est pas des rumeurs autour de Sting là.
OK.
Genre, je pense que c'est même de son propre aveu là, qui dit ça.
Ouais, mais là. Puis ça, c'est un enfer. Hein? Là, les gens qui écoutent, puis qu'eux autres sont pas capables de te faire des heures et des heures, puis d'avoir des orgasmes, on généralise pas, OK? Ouais. Je veux dire, je pense qu'un rapport sexuel, les femmes, là, mettons qu'on parle dans un monde binaire hétéro, là, mmh. Les femmes, c'est environ 7 minutes un rapport sexuel satisfaisant. Là, okay? Fait que, ouais. Pas besoin de se faire ramener pendant des heures. Là, okay? Mmh. Je veux juste le dire de même. Là.
C'est... On retient le mot ramener, qui est un terme très scientifique et technique.
Dis la professionnelle en ouais, sexologie.
Pas besoin de faire ramener pendant des heures. On comprend.
Non, mais c'est clairement ça. Puis, tu sais, ouais. Puis en plus, vous le savez, là, je pense que je le mentionne tout le temps. La pénétration, là, c'est le fun, là, mais on peut-tu faire autre chose? Mm-hmm, là, mm-hmm. Puis en fait, je pense que c'est un peu ça, le tantrisme. C'est le de joindre tous les sens, d'être capable de j'ai pas le mot qui me monte, là. C'est vraiment comme d'être capable de vivre dans tous tes sens, d'allumer tous tes sens. C'est d'être un avec le corps, l'esprit et ce qui t'entoure. C'est très spirituel mm-hmm. comme pratique. Ça vient du bouddhisme, de l'hindouisme. Mais c'est vraiment d'être capable d'être à 100% dans le moment présent. Puis ça fait juste du sens, dans le fond, parce que plus tu es dans le moment présent, plus tu es capable de ressentir les sensations sur ton corps. Puis à la fin de la journée, on est des êtres programmés pour le plaisir, pour ressentir le plaisir. Mm-hmm. Puis il y a plein de monde qui nous écoutent là, puis qui sont pas capables de ressentir du plaisir lors des rapports sexuels. Pourquoi? Ils sont pas dans le moment présent.
Mm-hmm. Ils sont dans leur tête, ils sont en train de penser à la performance, ils sont en train de...
À plein d'affaires, ouais. Tu sais. Fait que le tantrisme, c'est vraiment d'être capable de revenir à ce qui se passe ici, maintenant. C'est d'être capable de joindre le corps et l'esprit, de les aligner. Et c'est des pratiques, tu sais, un des exercices que je donne à faire, que les gens sont comme, « Hey, jamais de la vie », puis c'est la base. T'as pas besoin de jouer, t'as pas besoin du livre du Kama Sutra. Tu te regardes dans les yeux. Mm-hmm. Juste regarder quelqu'un dans les yeux, des fois, ça peut être super déstabilisant. Je le fais dans des retraites. J'anime des retraites avec Dosha Yoga. Puis on fait du eye gazing. Puis les gens pleurent, rient, sont déstabilisés complètement. D'être 2 minutes de temps pour se regarder dans les yeux, là, ah, c'est mm-hmm. comme, oh my God. Mm-hmm. Fait que tu fais ça nu avec ta partenaire et tu te prends les mains et les pieds nu.
Tu te prends les pieds.
Les mains, tu te colles les mains et les pieds, là. Tu sais, avec ton partenaire.
OK.
Tu, comme... Ouais. De même.
Tu fais genre ça avec tes orteils. Tu croises tes orteils.
C'était les orteils assez longs, ouais, certaines ouais. personnes. Fait que, tu te colles les mains, les pieds, puis là, tu te regardes dans les yeux, puis une fois que tu es devenu à l'aise avec ça, ben tu matches ta respiration. Puis ça crée une espèce de bulle. Tu reviens dans le moment présent, puis tu es tellement concentré sur le regard puis sur la respiration, tu peux pas faire autrement que d'être ici. Fait que ça l'accentue. Fois 1000 les sensations qui peuvent survenir après. Puis là, tu peux commencer le rapport sexuel en continuant à matcher la respiration. Puis tu peux t'embrasser en te regardant dans les yeux. Tout faire en regardant dans les yeux, ça apporte tellement une intensité. Là. Fait que ça, c'est une partie du tantrisme. Puis le tantrisme, on voit vraiment ça comme on associe ça à la sexualité parce que c'est souvent dans cette optique-là qu'on en parle, ouais. Mais ça peut être dans toutes les sphères de ta vie. Là. C'est juste d'être dans le moment présent, mm-hmm. finalement. C'est un grand mot pour dire.
D'être connecté avec tout.
Exact.
Connecté, puis essayer de genre de... C'est un peu une forme de méditation en même temps d'être la sexualité.
Oui.
Exact. Puis d'être en connexion avec toi-même, mais genre avec ta partenaire aussi, j'imagine. Essayer d'être le plus...
Aligné. Connecté, ouais. Oui, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que tu veux vivre dans un rapport sexuel. Tu sais, tu veux avoir du plaisir, puis on associe tellement ça à avoir un orgasme. Puis même, j'ai goût de dire d'avoir un orgaste. Je sais pas si on avait déjà parlé de la distinction entre l'orgaste puis l'orgasme.
Non.
OK.
Non.
Donc, l'orgaste, ça va vraiment être toutes tes sensations physiologiques. Ça va être la montée des tensions jusqu'au point culminant. Mm-hmm. Puis ça va être comme la sensation au niveau des organes génitaux. C'est ton corps, c'est ton plancher pelvien, c'est tout ce qui est vraiment physique. Mais l'orgasme a une composante qui est émotionnelle. Donc, souvent dans les rapports sexuels, on est tellement focussé sur l'orgaste qu'on se rend même pas compte qu'on n'a pas d'orgasme.
Mm-hmm.
Puis on veut arriver à avoir un orgasme. Puis un orgasme, c'est comme ça te pétille dans le cerveau, là.
Mm-hmm.
En plus de te pétiller dans les organes génitaux, là, c'est comme c'est ton corps au complet, c'est ton être, c'est émotif. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont pleurer ou rire après avoir eu un orgasme parce que c'est tellement d'émotions en même temps. C'est une explosion d'émotions. Mais il y a plein de gens qui vont jamais le vivre parce qu'ils sont tellement concentrés sur la technicalité puis les organes génitaux et tout ça. Donc, d'être capable de pratiquer des pratiques comme le tantrisme, ben là, ça t'amène plus loin dans tes sensations puis puis il y a tellement de styles de sexualité, là, je pars, là, mais tu sais, ouais. on pourrait parler des schémas érotiques, tu sais, t'as un schéma énergique, t'as un schéma sensuel, sexuel, coquin et métamorphe, qu'on appelle. Ouais.
Ben, je voulais te poser la question parce que j'ai vu sur, sur ton Instagram ça, puis j'avais jamais entendu parler de ça.
Ouais, c'est comme révolutionnaire.
OK.
C'est révolutionnaire.
C'est cinq types de cinq types de manières de vivre sa sexualité ou préférences un peu ou le.
Ouais. C'est ça? Ouais, fait que c'est cinq. J'ai goût de dire personnalité.
OK.
En anglais, c'est les five erotic blueprints.
OK.
Puis c'est pas moi qui ai inventé ça. Mm-hmm. La personne qui est à la tête de tout ça s'appelle Jaya Ma. C'est une sexologue clinicienne qui, ça fait des décennies qu'elle étudie ses clients. Puis il y a des gens qui vont la voir pour savoir, je comprends pas, je me comprends pas sexuellement. Puis des fois, on sait même pas qu'on se comprend pas. Mmh. Je me sens incompatible avec moi, ma partenaire. On est dans une impasse, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste que vous parlez pas le même langage. Vous avez pas la même personnalité sexuelle. Puis c'est pas parce qu'on a pas la même personnalité sexuelle qu'on est automatiquement incompatible. Mmh. Mm-hmm. Mais fait, c'est comme les cinq langages de l'amour un peu.
Ouais, ouais.
Fait, c'est, comme j'ai mentionné, tu as énergique, sensuel, sexuel, coquin, en anglais c'est kinky, ça se rapporte au fétiche, tout ce qui est tabou. Mm-hmm. Puis tu as métamorphe. Métamorphe, c'est littéralement, tu es égal tous les autres que j'ai nommés avant.
Okay. Tu peux passer d'un à l'autre, j'imagine, ou tu es en même temps les quatre.
Ouais, exact, tu es en même temps les quatre. Fait, okay. Tu es très. Tu sais, c'est genre. C'est le partenaire ou la partenaire que tu veux avoir parce que c'est sûr qu'elle va se
matcher,
à toi. Ouais. Ouais.
Puis on peut-tu les décrire un peu, mettons?
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va être ma prochaine question.
Oui. Donc, le premier, c'est énergique.
Ouais.
Ça, c'est des personnes qui vont être capables d'expérimenter des orgasmes sans nécessairement se faire toucher. Puis il y a des gens qui vont être comme, c'est même pas vrai. Ben oui, parce qu'on a parlé d'orgasme nocturne tantôt.
Ouais.
Mm-hmm.
Puis on a parlé de sting.
Oui. Puis, OK.
Puis, on peut aussi aller écouter la saison d'Occupation Double Bali où est-ce qu'il y a un bel exemple d'orgasme sans se toucher.
Ouais.
On va revenir là-dessus.
On va revenir là-dessus.
Mais on peut y revenir parce que. OK, on va y revenir.
OK.
Mais oui, ben c'est exactement ça.
Ouais.
C'est l'état de Kundalini là, qu'on appelle. Fait là, les gens vont. C'est difficile à comprendre parce que les gens sont comme. Oui, mais est-ce que ça implique un orgasme des organes génitaux? Un orgasme, ça implique pas nécessairement les organes génitaux. Tu sais, je me rappelle, j'avais un prof qui me disait « Si tu te grattes le lobe d'oreille puis t'as un orgasme, c'est valide. »
Mm-hmm. On se rappelle de notre prof de morale qui, elle, c'était entre les deux doigts.
C'est pas vrai.
C'est
la même prof.
La même prof.
elle arrive pour changer de vitesse. Elle conduisait. Puis là, son chum, il a flatté le doigt.
Il a fallu qu'elle arrête.
Puis elle a atteint l'orgasme.
Mais
je sais pas si elle a atteint l'orgasme ou si, genre, ça l'a... Ça l'allume complètement. Là,
Ouais.
Faut que je comprenne.
c'est qui
ça? Ben là, écoute. On la salue d'ailleurs.
Mais elle vous disait ça dans les cours?
Ouais, ça c'était dans un cours. Là. C'était la seule année où est-ce qu'on était les deux dans la même classe.
Mais je pense. Puis, mais OK, continue.
Ouais,
continue.
OK.
Est-ce que tu poses cette question-là parce que c'est bizarre qu'un prof
raconte
ses expériences personnelles dans un cours?
C'est parce que ça dépend dans quel contexte.
Ouais.
Mm-hmm.
Peut-être dans un contexte, on parlait de. C'était pas un cours de maths, là, mettons. Là.
Ouais, non, mais d'un prof
donc, de l'hypoténuse est ici, puis quand elle me fait flatter là, ça me met on en tabarnak.
Non, puis tu sais, puis je trouve ça. Écoute, je trouve ça correct dans le sens.
Je pense que c'était dans le. Elle racontait cette expérience personnelle-là en disant que tous les corps et les désirs étaient différents, mettons.
Puis son point, que c'était justement, c'est pas parce que il y a d'autres manières de. Stimuler le désir.
C'est ça.
Ah, ben là, dans ce cas-là.
C'était comme ça. Comme pris son exemple personnel, mais on rit de cette prof-là. Mais, pas de cette prof-là, mais de ces trucs-là, mais c'était vraiment.
C'est juste ça nous a marqué dans notre tête d'ado de 15
ans. Ouais. Aujourd'hui, tu sais, vous auriez probablement pas la même réaction.
Ouais.
Tu sais, quand t'es ado, c'est comme tu commences ta sexualité, puis comme les adultes qui font du sexe sont comme dégueu, là, tu sais. Fait que. Mais oui, effectivement, puis c'est valide, là, tu sais. Si elle, ça l'a comme spark quelque chose à l'intérieur d'elle, ça l'a allumé quelque chose, why not?
Mm-hmm.
Donc, il y a des gens qui, sans même être touchés, peuvent atteindre l'orgasme.
Ça demande un travail, j'imagine.
Oui.
C'est pas juste que ces personnes-là sont comme ça. J'imagine que ça se développe.
Oui, il y a des gens qui sont comme ça, qui ne savent pas, puis qui souffrent dans leur sexualité présentement parce qu'ils n'ont jamais été capables d'aller explorer cet aspect-là de leur sexualité parce qu'on est tellement mis dans des boîtes. On nous dit que c'est entrée, repas, dessert.
Mm-hmm.
Donc, on fait entrée, repas, dessert. Puis on se sent brisé à travers ce script-là. Alors qu'on ne l'est pas, c'est juste qu'on n'explore pas notre sexualité de la bonne façon. Donc, énergique. Puis c'est des gens, il y a toujours un... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un côté positif puis un côté négatif à chaque schéma. Fait que donc, t'as ton côté positif qui est atteindre l'orgasme sans être touché. Mais c'est des personnes qui... je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer de faire un câlin à quelqu'un qui est comme... qui se retire facilement.
Oui, qui est pas à l'aise avec le contact.
Quelqu'un qui est super sensible avec l'énergie des autres. Donc, si on va trop vite, trop rapidement vers les organes génitaux, cette personne-là va se refermer. Donc, ça peut être difficile pour ces personnes-là de vraiment être turn on sexuellement. Ça leur prend, ils aiment l'anticipation, ils aiment la distance, ils aiment le tease. C'est vraiment des gens qui vont être excités dans l'espace. T'as sensuel. Je suis sensuel. Et c'est vraiment des gens qui sont vraiment allumés par tous les sens. Donc, tu sais, moi, je peux manger quelque chose puis faire comme « Oh my God, j'ai un orgasme culinaire en ce moment. C'est trop bon, c'est trop bon. J'apprécie comme les goûts dans ma bouche. » Mais tu sais, le counter side, l'autre côté de la médaille, c'est que s'il y a des odeurs, tu me perds.
Ah ouais, okay.
Complètement. Je peux pas. Ça y va pas, là.
OK.
Fait que, mais tu sais, c'est des gens que on aime la lenteur. T'sais, c'est comme j'aime beaucoup les préliminaires. T'sais, c'est des gens qui vont vraiment aimer ça, prendre leur temps, qui vont aimer ça, se faire toucher beaucoup. Le toucher est super important.
S'embrasser.
T'sais, c'est comme la valse là, est quasiment plus importante que le rapport sexuel en tant que tel. Mais de l'autre côté, justement, c'est des personnes qui sont beaucoup dans leur tête parce qu'elles sont tellement allumées par tous les sens que si, mettons, il y a un tas de linge sale à terre, ça se peut que ma tête, elle pense juste au tas de linge sale qui est à terre. Puis que s'il y a une odeur que j'aime pas, je pense juste à l'odeur que j'aime pas.
S'il y a du bruit aussi, comme c'est ça.
Ouais, la musique est pas bonne, si la télé joue, si ça se peut que ça vienne vraiment me déranger. Fait que autant que je peux être allumée par vraiment beaucoup de choses, je peux être éteinte par vraiment beaucoup de choses aussi. Puis c'est les gens qui se parlent le plus dans leur tête. C'est des gens qui vont avoir la difficulté des fois à atteindre l'orgasme parce qu'ils sont comme sur le point, puis là, ça redescend parce qu'ils viennent de penser à quelque chose.
Déjà passé par là.
Effectivement.
Effectivement. Après ça, t'as sexuel qui est justement le... ça va être surtout les hommes qui vont être dans ce schéma-là par défaut, parce que c'est ce qu'on leur apprend. Donc, très axé sur les organes génitaux. On est vraiment dans l'orgasme. On va avoir un orgasme. S'il n'y a pas d'orgasme, on n'est pas satisfait. C'est des gens souvent qui vont manquer toute la beauté du paysage pour se rendre à destination.
On va aller trop vite à la fin.
Le contraire de l'alchimiste.
Ben, le contraire du sensuel, en fait.
Ouais.
Fait que ça peut être difficile, un sensuel puis un sexuel ensemble, parce que c'est comme, ça va trop vite pour le sensuel, puis le sexuel, il est comme, Colin, je passe par quatre chemins, là, tu sais.
C'est long, là, on va-tu y arriver?
Ouais, exact.
OK, continuons.
Continuons. Après ça, t'as le kinky, qui est coquin. Coquin, c'est tout ce qui est relié au tabou. Fait que, tu sais, ce qui est tabou pour moi n'est pas nécessairement tabou pour toi. Fait que, mettons que moi, en missionnaire, c'est vraiment un exemple. Je trouve ça tabou, ben là, ça va full m'exciter parce que là, on est en missionnaire puis je trouve ça tabou. Pis... Fait que des fois, le contexte va être plus important pour eux que l'acte en tant que tel. Fait que, par exemple, on s'embrasse, mais on est dans un lieu inusité. Là, parce qu'on est dans un lieu inusité, je le trouve vraiment bon, le baiser. Mais si on avait le même baiser dans une chambre à coucher, qui est pour moi pas un endroit tabou, ben je l'aurais moins apprécié. Fait que t'as le kinky, t'as le coquin psychologique, puis t'as le coquin plus physiologique. Fait que des gens qui vont aimer ça faire des jeux de domination, qui vont aimer ça jouer avec les sensations du corps, s'attacher, jouer avec la température, etc. Et t'as le... ça, il faut faire attention, le côté plus négatif, c'est que c'est des gens qui peuvent avoir juste comme une route pour se rendre à l'orgasme. Fait que s'il faut que tu portes, par exemple, un chapeau de cow-boy pour avoir un orgasme, ben, tu sais, ça veut pas dire, OK, j'ai pris un chapeau de cow-boy, je pourrais prendre quelque chose de plus, mettons, un imperméable. Puis là, toi, ça te prend ça pour avoir un orgasme.
C'est dur d'en avoir tout le temps.
C'est limitant.
C'est limitant.
Puis est-ce que c'est des personnes qui sont toujours attirées vers la nouveauté, tu sais?
Ouais.
Parce que, tu sais, un tabou, à un moment donné, plus tu l'expérimentes, moins il devient tabou, I guess.
Ça prend des années pour ces personnes-là pour perfectionner les scénarios idéaux qui les amènent à une espèce d'extase. Fait que oui, il y a toujours des choses qu'on peut amener, la nouveauté, etc. Puis c'est des... Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est ça, c'est la gang de fuckés, là. Mais vraiment pas. C'est les gens, c'est prouvé, les études ont prouvé que c'est les gens qui ont les meilleures capacités de communication. Mm-hmm. C'est les gens qui vont avoir le plus d'empathie. Parce que quand t'es dans le tabou, t'as pas le choix d'avoir des discussions au préalable pour savoir sont où les limites personnelles de chacun des partenaires qui prend part au rapport sexuel. T'as pas le choix d'être empathique, t'as pas le choix de respecter les limites de l'autre, alors qu'on n'a jamais ces discussions-là quand on est, mettons, on est deux sexuels, ben, on y va par là, on fait du entrée, repas, dessert, puis on est bien content là-dedans, mm-hmm. T'sais.
Mm-hmm. Puis justement, t'sais, dans, t'sais, mettons, les communautés BDSM, tout ça, la communication est super valorisée puis super normalisée aussi, là, t'sais, ben, plus que dans la moyenne, tu sais, fait que j'imagine que justement t'as pas le choix d'avoir, ok, c'est quoi tes préférences, c'est quoi quel jouet t'aimes, tu sais, pour que ta voiture soit un bon fit, puis si tu sais tout le monde est à l'aise avec tout là.
Exact. Puis tu sais, c'est des gens aussi qui vont avoir du aftercare qu'on appelle. Puis souvent c'est un moment après le rapport sexuel qui peut être hyper intense psychologiquement ou même physiquement, un moment pour revenir. Mm-hmm. Puis on fait pas souvent ça après les rapports sexuels, surtout quand c'est quelqu'un comme que c'est, mettons, la première fois que tu as un rapport avec ou que tu prends pas le temps de redescendre de ce qui vient d'arriver. T'sais. Mais eux, c'est vraiment important pour eux d'être capable de faire ça. Puis je trouve que ça alimente le désir d'être capable de faire ça. T'sais, on repense à ce qui vient d'arriver.
Redescendre, on en parle ou juste avoir un moment de connexion? Ou...
Un moment de connexion, que ce soit d'en parler ou que ce soit de juste comme revenir physiquement dans l'espace, mm-hmm. dans la réalité, en dehors du scénario. Mm-hmm. Donc, c'est on les juge beaucoup, ces gens-là, mais c'est des gens qui sont hyper épanouis sexuellement. Là. Ah, mm-hmm. En général. Mm-hmm. En général. Puis après, tu as le métamorphe. En anglais, ça s'appelle shapeshifter. Puis comme j'ai mentionné, tu es littéralement toutes les autres que je viens de nommer. Tu te reconnais dans tous les autres également. Là. Pas un ou deux. Ouais. Non, tu es littéralement les quatre. Mm-hmm. Okay. Puis ça fait des partenaires absolument extraordinaires. Mais... En contrepartie, ils ont tous les points négatifs aussi.
De toutes les autres.
De toutes les autres.
Ouais.
Mm-hmm. Mais tu peux-tu, est-ce que tu es soit un ou les quatre, mais tu peux-tu être deux? Ou tu peux-tu, ouais. Tu peux-tu être un peu de ci, mais un peu de ça?
Ouais. Ouais. Fait que tu sais, puis on évolue, hein, notre sexualité, elle évolue. Ouais. Donc, je pense que c'est, on a comme un schéma primaire. Puis après ça, tu peux développer tes autres schémas. Donc, par exemple, quelqu'un qui m'entend aujourd'hui dire « Ah, j'aimerais ça avoir un orgasme énergétique », ben tu peux le travailler. Mais ça prend du temps, puis ça prend de la patience. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui a envie d'investir ce temps-là dans mm-hmm. leur sexualité pour avoir du plaisir. Alors que, Colin, on devrait tellement.
Tantôt, tu disais c'est pas parce qu'on n'est pas le même schéma que si vous l'échec. C'est, qu'est-ce qu'on fait, mettons, quand il y a un et le quatrième, je me souviens plus des noms, mais tu sais, un, il est le sensuel, puis l'autre est tabou, là, tu sais.
Ouais.
Comment qu'on réconcilie ça?
Ben, tu sais, par exemple, sensuel, t'as dit sensuel et tabou.
Ouais.
C'est tellement facile de trouver des choses qu'on est capable de faire ensemble, parce que le sensuel...
La chèvre va juste être dans le coin de la pièce.
Genre. Ça peut être dans le... Non, c'est ça. Non, mais, tu sais, on parle d'amener des accessoires, ça peut être juste comme une plume, ça peut être... Puis là, le sensuel aime ça... se faire toucher, aime ça vivre des sensations sur son corps. Puis là, la personne qui est dans le tabou, ben, va peut-être amener un objet que pour lui ou elle est tabou. Donc, peut amener ça avec le sensuel, mm-hmm. lui faire découvrir des sensations. Donc, il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente entre les deux. Puis, j'ai remarqué que souvent, quand ton schéma primaire est comblé, après ça, ça devient facile de t'ouvrir aux autres schémas. Donc, si t'es avec un ou une partenaire qui est différent de toi, de combler son schéma fait en sorte que le partenaire va souvent s'ouvrir aux autres schémas, donc s'ouvre par conséquent à ton schéma aussi.
Mm-hmm. Ouais, je comprends.
Tout ça me... moi, mettons, je l'applique à ma vie, mettons, puis à mes relations passées, mettons, là, puis... maintenant, après t'avoir entendu discuter de tout ça, je suis capable de vraiment mieux expliquer pourquoi dans une relation passée, la sexualité était quand même, ben, pas problématique, mais était loin d'être
satisfaisante
pour tout le monde, là, tu sais. Mm-hmm. Puis pourquoi dans une autre relation après ça, c'était comme, OK, là, genre, pile à la même place, tu sais.
Ouais.
Puis... Puis là, maintenant, je guess que maintenant, je vais être capable de le verbaliser, mettons, là. Sauf que c'est quand même... C'est quand même chiant, tu sais, mettons. Ben, c'est quand même chiant. C'est quand même touché parce que si t'es pas sur le même schéma, ça peut être poche, là. Puis si la sexualité...
ça peut être poche.
Si la sexualité est poche, c'est poche, là, tu sais.
Ouais. Ouais.
Mais je pense que... Tu sais, ce que je remarque quand tu dis ça, tu sais, c'est à quel point, justement, il y a des différences d'une personne à l'autre
ouais.
dans comment on vit notre sexualité puis qu'on veut la vivre. Puis tu sais, quand... Tu sais, moi, ça m'est arrivé, tu sais, mettons, d'être en relation, puis là, pendant des années, t'es sur une certaine longueur d'onde avec ta partenaire, puis mettons que, je sais pas, les deux, on est sexuels, ben là, la sexualité, ça se passe comme ça. Puis là, t'arrives avec une nouvelle personne, puis si, tu sais, pour toi, la sexualité, c'est comme ça, puis ça a toujours été comme ça, puis la personne avec qui t'as été a tout le temps été satisfaite que ça soit comme ça, c'est facile de penser que ah, ben, si je reproduis ça, ça va fonctionner, la personne va être satisfaite. Puis là, tu fais ça, puis là, finalement, c'est comme... ça n'a pas le résultat escompté. Ou bien, tu te dis, wow, genre, relax. Ou,
ça n'a pas le résultat escompté.
Mais justement, puis tu sais, on se rend compte, à un moment donné, quand on a plusieurs partenaires, veut pas que okay, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre.
Vraiment.
Une personne aime ça, tu sais, de telle manière, de se toucher comme ça, d'avec un jouet, pas de jouet, tu sais. Puis c'est comme, OK, il y en a qui aiment ça, tu sais, à fond la caisse, il y en a qui aiment ça bien doucement, tu sais. Puis c'est comme, OK, il y a vraiment un large éventail de possibilités.
Ouais.
Puis de là, justement, que c'est comme essentiel, en fait, le plus tôt possible d'en discuter.
D'avoir
parce
une
que
discussion,
sinon, c'est trop facile de genre penser que la manière que moi j'étais habitué ou la manière que, tu sais, la dernière personne avec qui j'ai fait ça, c'était comme ça que ça marchait, puis l'autre, elle avait un autre vécu, puis d'autres préférences, puis là, ça peut vraiment ne pas fonctionner, puis même causer des malentendus, là, tu sais,
ouais.
à certains niveaux.
J'ai envie de répondre deux choses à ça.
Ouais.
OK. D'une part, je pense que il y a des gens qui vont s'être reconnus dans les schémas et vont dire, OK, moi, je suis comme ça.
Ouais.
Puis, je pense que effectivement, c'est comme quand t'es avec quelqu'un puis que ça marche parce que vous êtes le même schéma, t'es comme soulagé. T'es comme, OK, ça va être, on va être compatible.
Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qui dit que t'aimeras pas autre chose? Mm-hmm. Parce que chaque personne est différente, mais chaque personne te fait découvrir des choses aussi. Il y a des gens avec qui t'es moins compatible, puis il y a des gens avec qui t'es plus compatible. Fait que ça fait en sorte que tu te découvres à chaque personne. Je veux dire, ton premier rapport sexuel versus ton 30e, tu sais plus de choses. T'es plus au courant de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas. Puis je pense que chaque personne a comme une richesse à amener au rapport sexuel. Et ça passe par mon deuxième point qui est la communication. Puis comme tu dis, faut en parler plus tôt que tard.
Mais oui.
Parce qu'on attend toujours qu'il y ait des problèmes avant de parler de la sexualité. Mm-hmm. Puis là, ça fait des années qu'on se côtoie, ça fait des années qu'on fait du sexe ensemble de la même façon parce que clairement, on a trouvé le chemin.
Ouais.
Fait que là, on fait pas d'autre chose que ce chemin-là la plupart du temps. En général. Puis là, on se parle pas, on a des rapports sexuels dans le silence, on se rhabille, on vit nos vies.
Ouais.
Puis là, il faut en parler parce que là, je me rends compte que, oups, je pense que j'ai envie de découvrir autre chose. Comment est-ce que je fais pour en parler? Oups, j'ai faké l'orgasme pendant des années. Comment est-ce que je fais pour en parler?
Mm-hmm.
J'en ai là, du monde qui vient me voir puis qui me disent, comment je fais là maintenant là, pour expliquer ça?
Mais oui. Pour sortir le chat du sac.
Ouais.
Tu sais, on avait parlé aussi quand tu étais venu la dernière fois, puis c'est que plus on attend, justement, plus c'est extrêmement difficile d'amener ça. Ça fait 3 ans
c'est
que,
comme tout, là.
Qu'on fait quelque chose, puis que là, c'est comme devenu un peu dans les règles non écrites.
Ouais.
Du coup,
plus le mensonge est long,
ouais.
plus c'est tough d'en s'en sortir.
Ouais.
Là.
Ouais.
Puis tu sais, ce qu'on parlait, puis c'est encore vrai, puis ça sera toujours vrai, d'être le plus honnête possible, je pense, d'entrée de jeu, tu sais, dès le début, que ce soit sexuellement ou que ce soit sur tous les aspects, avec ton partenaire, ça fait qu'il n'y a pas deux ans et demi plus tard un genre de « Hey, tu sais, telle affaire, dans le fond, finalement, ça serait peut-être plus ça. » Puis c'est comme « Ben là,
je fais ça toutes les fois. »
Ça fait deux ans que c'est comme ça, puis tu me l'as pas dit, puis nanana. Fait que...
C'est gênant, là.
Ouais.
Tu sais, t'es comme « Ah! » Moi, j'étais sûre que c'était mon trick, là. Tu sais, je pensais là, que tu tripais quand je faisais ça, là. Ouais, non.
Non,
ouais.
Mais je voulais te faire plaisir parce que toi, t'avais l'air de triper quand tu faisais ça, puis nanana, puis là,
Ouais.
Fait que je pense que les schémas ouvrent des portes. Tu sais, quand tu comprends que la sexualité, elle sort d'une boîte, là, puis que tu te donnes cette permission-là, je pense que les schémas viennent apporter une autre perspective, puis te donnent la permission d'explorer autre chose aussi.
Mm-hmm.
Ouais. Puis c'est, je pense que c'est, ça vient soulager certaines personnes de savoir que, oh mon Dieu, OK. Parce que le schéma qui est le plus démontré dans la société, c'est le sexuel.
Ouais.
Mm-hmm. On voit ça dans la porn. Là, je veux dire, tu vois pas ouais. d'acte vraiment sensuel là, dans la porno. Là. Ou kinky, tu le vois. Kinky, ouais. Mais encore là, c'est super axé sur les organes génitaux, mm-hmm. sur la domination mm-hmm. aussi.
Le sensuel, il y en a dans la porn plus pour femmes, justement, féministe. Ou plus féministes.
Ouais. Oui, ouais, clairement. Puis, c'est sûr que les femmes, il y a plus de femmes dans le sensuel, mais il y a aussi beaucoup de d'hommes, là. Tu sais, je pense qu'il faut pas comme trop faire d'association non plus, là. Mais, ouais. Puis c'est intéressant après ça d'aller travailler. Moi, je me rappelle, j'avais un partenaire qui était métamorphe. Puis je suis quelqu'un qui communique quand même vraiment beaucoup, là, dans mes rapports sexuels. Pour moi, c'est important, tu sais. Je veux dire, on va l'avoir la discussion parce que c'est pas vrai que toi puis moi, on va être insatisfait dans ce rapport-là. Là. Puis j'ai pas de filtre parce que je parle de ça à tous les jours de ma vie.
C'est ça.
Ouais. Fait que je walk the talk, là. Tu sais, j'applique ça dans mes rapports sexuels. Puis, tu sais, je me rappelle, j'avais quelqu'un qui ça avait commencé d'une certaine façon. Puis, avec le temps, je m'étais ouverte sur des choses que j'aime, sur des. Puis, cette personne-là s'était complètement moulée à moi. Puis là, j'étais comme, hey, je suis vraiment bonne, j'ai des bons skills de communication, je suis sa coche. La personne était complètement métamorphe. Là.
Ouais.
Fait que ça, c'est devenu super facile pour cette personne-là de s'habituer à moi puis de se mouler à moi. Puis après ça, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention parce que c'est le fun que cette personne-là se moule à moi puis je trouve ça extraordinaire, les rapports sexuels que je peux avoir avec cette personne-là. Mais il faut faire attention parce que cette personne-là aussi, elle a des besoins.
Ouais.
Puis vu qu'elle est toute, si on fait juste une sorte...
Mais c'est ça, on peut-tu... Est-ce que le métamorphe... on peut être trop métamorphe, on peut être trop se mouler à l'autre puis finalement oublier ses propres, oublier ses propres envies. Hein.
Ouais, puis ça c'est un des côtés négatifs du métamorphe, c'est de tellement vouloir plaire, de tellement vouloir se mouler à l'autre. Puis ça peut être renforcé par l'anxiété de performance, puis dire que c'est ton rôle à toi de rendre le rapport sexuel satisfaisant. Que oui, tu sais, quelqu'un peut complètement s'oublier puis va être malheureux, malheureuse dans sa sexualité. Là. Donc, puis les métamorphes vont souvent dire qu'ils n'en ont jamais assez. C'est des gens qui sont hyper... Tu sais, les autres, ils peuvent y aller là, pendant des heures. Tu sais, ton affaire de... écoute, là.
Métamorphes.
Parce qu'ils peuvent tout faire, ils ont envie de tout faire. Ouais. C'est comme, ils ne sont jamais rassasiés. Ils ont comme un peu ce sentiment-là. Puis ils se sentent un petit peu à part dans leur sexualité aussi, tu sais. Bien qu'ils soient absolument des partenaires extraordinaires.
Moi, on souhaite à tout le monde de se trouver un métamorphe pour combler...
ou du moins de bien savoir exprimer son schéma. J'ai une question pour toi, puis je ne sais pas si c'est une question que tu reçois des fois, mais moi, avec l'âge adulte, puis la vie étant ce qu'elle est, puis les horaires qui sont serrés, puis quand j'arrive le soir chez nous, là, je suis fatigué, mettons.
T'as une perte de désir.
Ben, pas une perte de désir, mais si je veux avoir des rapports sexuels, faut que je fasse de la place pour ça. J'ai pas le choix, ça arrive plus tout seul. Quand j'étais plus jeune, ça arrivait tout seul, tu sais, mettons. Ouais. Quand j'étais début vingtaine, puis que j'avais pas grand-chose d'autre à penser dans ma vie, c'est comme t'arrives, puis là, t'as un rapport sexuel parce que vous écoutiez un film, puis genre, vous couchez ensemble trois fois pendant le Seigneur des Anneaux, mettons, là, tu sais. Ça m'arrivait avant ça, mettons, là, tu sais. Là, faut que je fasse de la place, là.
Ça fait de 3 heures, fait qu'une fois par heure, quand même.
Une fois par heure, puis tu sais, c'est les deux tours, fait qu'il y a tout le temps des signes phalliques, là, qui excitent.
C'est subliminal.
Ouais, mais tu sais, ça avant, ça m'arrivait, puis j'avais pas besoin de faire de la place. Maintenant, j'ai besoin de faire de la place, puis c'est pas tout le temps facile à ouvrir ton calendrier. C'est pas tout le temps facile de faire cette place-là, tu sais, puis je sais pas si c'est une expérience qu'il y a d'autres mondes que moi qui vivent, puis je sais pas s'il y a des astuces ou des trucs que t'as pour ce propre. Parce que c'est quand même un problème, parce que une fois que je fais de la place, c'est tout le temps great. Tu sais, c'est tout le temps le fun. Sauf que des fois, j'ai comme on dirait que j'ai pas envie de faire la place avant que j'en fasse.
Ouais.
Des fois, c'est le moteur qui est plus dur à starter. Une fois que t'es starté.
Ouais, comme un vieux skidoo. Comme Sandré qui disait à OD, c'est comme un vieux skidoo. Une fois que t'es starté.
Une fois que t'es starté, ça va, c'est juste plus dur.
Des fois, c'est le moteur à starter, c'est ça.
on rentre dans le sujet du désir sexuel quand on parle de ça. Parce que, bon, tu sais, mon accompagnement, ça te fait rire.
Non, genre, je vais juste me rappeler au vieux skidoo.
OK. Tu sais, mon accompagnement s'appelle réponse sexuelle parce que je donne des réponses sexuelles. Mm-hmm. Mais la réponse sexuelle, c'est un concept en sexologie qui englobe toutes les réponses physiques et psychologiques de la sexualité. Dans le fond, la réponse sexuelle, c'est le graphique. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé. Le graphique, c'est désir. Voyons, je vais te le dire. Excitation, plateau, orgasme, résolution.
Tout le monde a déjà
entendu parler de ça. On avait-tu parlé dans le...
Je sais pas si c'était avec toi, mais je me rappelle avoir entendu parler de ça, possiblement au secondaire.
Je pense que c'est encore là.
Encore Sylvie. La même professeure.
La madame de morale. Fait que t'as excitation, plateau, orgasme, résolution. Mm-hmm. Excitation, c'est tout ton corps qui se prépare à avoir un rapport sexuel. Faut comprendre que ce que je viens de nommer excitation, plateau, orgasme, résolution, c'est que physiologique. OK? Tu peux avoir, puis là, je suis désolée, trigger warning, une agression sexuelle, puis passer à travers toutes ces étapes-là. Okay? C'est que physiologique, c'est un réflexe du corps, c'est ton corps qui fonctionne comme ça.
S'il y a quelqu'un qui a ce trigger-là, il n'y aura pas beaucoup de temps pour poser sur
pas,
pause.
Ouais, je suis désolée.
Il faut qu'il sorte son cellulaire de sa poche.
Je veux dire, comme la fille, je suis désolée.
Non, ça va.
Fait, tu sais, c'est... Puis, c'est tout ce qui est érection, lubrification, etc. Après ça, ton plateau, c'est pendant le rapport sexuel, t'as l'excitation qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Puis après ça, t'as ton orgasme et t'as la résolution. La phase de résolution, elle est plus longue chez les hommes que chez les femmes. Les hommes, surtout en gagnant en âge, vont avoir besoin de plus de temps entre les rapports sexuels parce qu'avant qu'on puisse revenir à l'excitation, le corps a besoin d'une pause. Fait que ça, c'est physiologique. Puis avant ça, t'as la phase du désir qui fait partie de la réponse sexuelle. Puis des fois, puis pourquoi je vous explique tout ça, là, ça a l'air long, là, mais c'est que tu dis « quand je suis startée, ça me tente », c'est que tu peux interchanger l'excitation puis le désir dans la courbe. Donc, il y a une stimulation qui amène à l'excitation, qui est érection, lubrification, etc. Donc, une fois que ton corps il est starté au niveau réflexe, tu as le désir psychologique, tu as la partie psychologique qui peut embarquer. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « j'ai pas de désir, mais une fois que je suis startée, ça me tente. » Puis je leur dis « ben oui, c'est parce que tu inverses les deux phases. » Fait que c'est pour ça que des fois, c'est important de se mettre du temps dans son calendrier, même si on n'a pas nécessairement tout le temps envie. Bien sûr, il faut que le consentement soit là. Mais de dire « c'est vrai que j'ai du plaisir, puis c'est vrai que j'ai envie de vivre ce genre de sexualité-là où j'ai des rapports régulièrement avec ma partenaire ou même en solo. » Puis dire « je sais qu'une fois que ça commence, c'est parce que j'interchange mes deux phases dans la courbe. » de la réponse sexuelle. Le désir, c'est super complexe. Mais ce que j'ai goût de te demander aussi, c'est... puis, tu n'es pas obligé de répondre, mais quelqu'un qui a le même questionnement que toi, c'est de dire, ton niveau de satisfaction sur 10, il est où?
En ce moment, il est proche de 10. Là.
OK.
Ouais. Dans ma relation actuelle, mettons, entre 8 et 10, les fois, là, mettons.
OK. Parce qu'il y a des gens qui, pour qui le désir va être... Puis là, c'est correct que tu me répondisses puis que t'aies
pas
envie.
Mais parce que je vais faire la même... Je vais répondre pour une autre relation que j'ai eue. Ou est-ce que c'était pas ça, là? Tu sais, puis là, c'était encore crissement plus dur de faire du temps puis de mettre ça de l'avant, là. Tu sais, où est-ce que là, c'était rendu un problème, là, tu sais.
Souvent, le niveau de satisfaction va venir aussi avoir une influence. Puis souvent, quand je vais demander, tu sais, t'es où sur 10? Il y a une personne qui va me dire 8, 9, 10. Puis je suis comme, OK, parfait. Mais là, tu sais, la personne est assise devant moi. Fait que définitivement, il y a quelque chose qui fonctionne
c'est ça,
pas.
Déjà
là.
De base.
Ouais. Fait que là, je vais dire, OK, puis si tu peux faire quelque chose, amener des ingrédients de plus dans ton rapport sexuel, ça serait quoi? Puis souvent, on va me répondre des choses que la personne ne fait pas. Fait que là, je vais dire, OK, fait que tu voudrais rajouter tout ça, mais tu me dis que tu le fais pas. Donc, je te repose la question. 1 à 10. Et où ta satisfaction? Plus souvent, on va baisser sur l'échelle de 10. Plus tu as de satisfaction, plus tu risques d'avoir du désir. Puis là, le contraire, c'est pas parce que t'as pas de désir que t'as pas de satisfaction. Là. Je veux juste le dire parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais là, je suis satisfaite puis j'ai pas de désir. » Mais se questionner par rapport à son niveau de satisfaction, je pense que c'est toujours aussi une bonne chose à faire. Puis quand tu me dis « ben la satisfaction est là, mais je suis fatiguée. Tu fais beaucoup de sport aussi, je pense.
Ouais, ça aussi.
Tu sais, le travail, la job, on est des adultes, là. Veux, veux pas, on n'est plus des adolescents qui travaillent à temps partiel là, au cinéma Goudzo la fin de semaine, puis qu'on a le temps de chiller puis de se coucher tard, puis on a des responsabilités, on a des objectifs, puis c'est normal que ça vienne interférer dans notre vie sexuelle. Donc, le mettre à l'horaire.
C'est ça, maintenant, c'est ça.
Ouais.
Ouais.
Au début, là, tu sais, avec nos premières dates, mettons, moi et ma blonde, c'était comme... Première date, c'était excitant, puis là, c'est comme... C'est un mercredi, mais ça se peut qu'on se couche à 3h du matin parce que c'est comme genre...
Ça, man. Ça, c'est... Ça,
mais tu sais, en tout cas...
Tue,
oui,
ça,
ben, ça tue, mais tu sais, au début, vu que c'est comme excitant, ben genre, ça te dérange moins, puis tout, puis là, justement, tu sais, on se couche à des heures pas possibles, puis on faisait la sexualité à des heures pas possibles, tu sais.
Ouais.
Mais genre, maintenant, c'est comme si on l'a pas fait passer 11h du soir.
C'est terminé.
Il n'y a aucune chance que ça se passe.
Ouais.
Aucune chance que ça arrive, là. Tu sais, là, c'est comme... avec le temps, on faut être capable de rentrer dans la routine, puis s'il n'est pas rentré dans une genre de
d'habitude,
d'horaire, ça se passe pas.
Ouais,
puis les gens font souvent cette erreur-là de comparer la fréquence des rapports sexuels au début d'une relation versus quand la vraie vie embarque. T'es complètement high sur la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine, toutes les nines, là. Tu sais, je veux dire, t'es high, là. Fait que t'es pas fatigué le lendemain, là, t'as été shooté à dopamine, t'as été... Fait que c'est normal d'avoir plus de désir au début, puis il faut jamais se fier à ça pour dire « Ouais, mais là, au début, on faisait ça 4 fois par jour. » Oubliez ça, là, faire ça 4 fois par jour, là, quand la vie embarque. Parce qu'en plus, au début, ça nous dérange pas d'être fatigué pour aller travailler. On vibre sur nos petites hormones du bonheur, tu sais. Puis ça nous dérange pas de mettre nos amis de côté, mettre certaines responsabilités de côté. Mais c'est pas... j'ai juste sustainable, là, c'est pas...
C'est pas durable.
C'est le mot que j'allais dire.
C'est pas durable. Donc, il faut pas s'en vouloir pour ça non plus. Puis je pense que les gens, le problème, c'est qu'on se compare énormément. C'est juste l'affaire de Sting, là. De dire, hey, il y a un gars dans la vie qui est capable de faire ça. Moi, je suis pas capable. Tu sais, je suis une crotte à cause de ça, là. C'est quoi, là, tu sais? Fait qu'arrêtez de vous comparer. Il y a personne qui vit sa sexualité de la même façon puis qui a envie de la vivre de la même façon non plus, tu sais.
Puis comme tu disais tantôt, c'est vraiment pas tout le monde qui aime ça, le faire ça pendant 8 heures non plus, là, tu sais. Je pense que le best, c'est de trouver quelqu'un qui est sensiblement qui a le même niveau de désir puis qui a les mêmes préférences que toi, grosso modo, mettons, là. Qui fait que... C'est que si c'est une fois par mois, mais que les deux sont full à l'aise avec ça, puis ça les comble complètement, ben fine, t'sais, tant mieux.
Exact. Ouais, puis je pense que c'est ça, t'sais, c'est vraiment d'arrêter de se comparer, puis d'aller s'outiller, t'sais, sur la sexualité, comprendre comment il fonctionne, le désir. T'sais, on a des turn-on, on a des turn-off. Ça, je pense qu'on avait peut-être parlé là, la dernière fois. Ouais, turn-on, turn-off.
Pas vraiment.
T'as un système d'inhibition sexuelle puis t'as un système d'excitation sexuelle. Puis c'est comme dans une automobile, t'as un frein puis t'as un accélérateur. Puis t'as deux freins même dans l'automobile. Puis à l'intérieur de toi aussi, t'as le frein psychologique. Tu sais que, mettons, ça te prend trop de temps. Fait que là, tu turn off parce que ça me prend trop de temps. Fait que laisse faire. Exemple. Puis t'as le frein qui est tous les facteurs externes. Style, mettons, les mauvaises odeurs. Fait que là, t'es comme... Puis t'as les accélérateurs.
Toi, c'est vraiment quelque chose qui est non négociable.
C'est comme... Ah non, c'est non... Moi, j'ai pas de pitié pour ça. Mais c'est, j'applique
pitié,
ça.
No mercy.
No mercy. Non, mais puis je l'applique sur moi aussi, là. Tu sais, c'est comme...
T'as-tu un petit diffuseur dans ta chambre?
Ben,
les huiles essentielles.
Ouais, j'ai l'air chiante avec ça, mais c'est juste... Je veux dire,
va prendre ta douche, tu te reviendras après.
Mais tu sais, puis je veux juste dire, ça va sonner weird, mais un pénis, ça sent le pénis, c'est correct. Tu sais, une vulve, ça sent la vulve, là. Tu sais, un aisselle, ça sent l'aisselle, là. Tu sais, les odeurs corporelles du corps ne m'écœurent pas, là. OK? Mais.
Jusqu'à une certaine limite.
C'est ça.
Je comprends. On comprend.
Ouais, voilà. Fait que ceci étant dit, je disais quoi exactement? Ah oui, sur les systèmes. Fait que t'as les turn-on, puis ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui vont avoir, tu sais, comme dans un auto, t'as le frein sur l'accélérateur, puis sur le frein.
Ouais.
Ton auto, t'es à bug, là, elle avance pas, là, tu t'en vas pas nulle part, là. Où ça donne des petits coups, puis c'est pas plaisant, là. Fait qu'il faut que tu trouves un moyen de lever le pied sur le frein pour pouvoir mettre le pied sur l'accélérateur. Puis pour faire ça, il faut que tu trouves tes turn-off, puis il faut que tu trouves tes turn-on. Puis il y a des gens qui ne comprennent pas quels sont leurs turn-off. Puis ça fait en sorte que ça tue complètement le désir. Parce que son turn-off, ils savent pas pourquoi. Ils pensent qu'ils sont brisés, qu'ils n'ont pas de désir. Puis là, ben, à force d'essayer de comprendre Ah, ben moi, les mauvaises odeurs. Ah, moi, quand j'ai une liste de tâches à faire que j'ai pas passé à travers, quand il est passé 11 heures le soir, j'ai plus d'énergie.
Ouais.
Donc, il faut créer des contextes sexuels qui sont adéquats pour avoir des rapports sexuels. Puis là, les gens disent, c'est compliqué. Ouais, mais arrêtez de penser que ça tombe du ciel.
Mm-hmm.
Je comprends là, que c'est ça qu'on voit là, dans les films là, puis dans le porno. Là. Du monde qui ont juste envie de se dévorer. Là.
Ouais.
Pas ça, la vie.
Mm-hmm.
La vraie vie, c'est, comme tu as mentionné, dire je suis brûlée puis il faut que je mette dans mon horaire.
Mm-hmm.
Après 11 heures, ça se passe pas. Puis c'est pas comme au début. C'est ça, la vraie vie. Fait que, tu sais, je pense que les gens veulent avoir des sexualités extraordinaires en ne mettant pas d'efforts pour en avoir une.
Mm-hmm.
Tu veux courir un marathon, là, qu'est-ce que tu fais?
Je cours.
Tu cours, tu t'entraînes, tu te lèves le matin de bonne heure, tu t'alimentes bien, tu prends des suppléments.
Mm-hmm.
Ben, tu vas avoir une sexualité extraordinaire. Renseigne-toi sur le sujet, va chercher des outils, communique davantage, découvre-toi davantage. Fait que, tu veux plus de désir, trouve tes turn-on, tes turn-off. Puis un exercice que je peux donner à faire qui est vraiment simple, ça serait de dire, tu prends, t'écris ton pire rapport sexuel. Puis là, faire attention aux personnes qui ont vécu des traumatismes puis des événements un petit peu plus négatifs. Bien respecter sa limite dans cet exercice-là. Mais tu prends ton pire rapport sexuel. Tu vraiment l'écris avec le plus de détails possible, genre qu'est-ce que tu portais cette journée-là, comment que tu te sentais, c'était qui l'autre personne, comme qu'est-ce qu'elle sentait, qu'est-ce que tu sentais, le lieu, etc. Puis tu fais le même exercice pour ton meilleur rapport sexuel à vie. Tu les compares puis tu regardes qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre. Puis là, tu es capable de cerner « Ah, ça me turn off, ça me turn on.
Mm-hmm. »
Puis là, tu peux créer un contexte sexuel qui fait que les étoiles s'alignent pour que tu aies tout un rapport sexuel. Puis dire à chaque fois, on enlève les turn-offs.
Ouais.
J'ai un vague souvenir. Je pense que peut-être t'en avais parlé avec les filles de sexe oral. Puis il n'y a pas genre un questionnaire que tu peux faire avec genre une liste de turn-offs ou de turn-on potentiels. Puis tu peux savoir, tu peux comme voir un peu c'est quoi tes turn-offs. Parce qu'il y en a pour qui, mettons, le fait de ne pas avoir pris sa douche, genre, tu peux pas aller faire le sexe. Puis pour d'autres, c'est comme.
M'en fous.
Là,
ouais. Oui.
Il me semble que
Oui. Il y a un livre qui s'appelle « Come as you are » de Emily Nagoski. Désolée pour le... Il y a un questionnaire dans son livre. Ouais. Sinon, dans mon accompagnement, j'ai un mois complet sur le désir sexuel où tu as plein de quiz, plein de tests, plein d'exercices que tu peux faire puis que tu peux appliquer là, pour comprendre ton désir aussi puis l'alimenter. Mais dans le livre, il y a aussi des exercices que tu peux faire. Puis sinon, ça se trouve là, en ligne, là, des listes de turn-on, turn-off. Là, c'est pas sorcier. Là,
ça permet de mieux comprendre aussi pourquoi, mettons, ta partenaire ou ton partenaire n'a pas de désir dans une certaine situation. Oui.
Ouais.
J'imagine que... là, il faut que tu sois quand même crinqué, là, mais mettons, après chaque... Sans nécessairement l'écrire dans un journal, tu sais, après chaque relation sexuelle... Si tu te fais toi-même un genre de checklist mentale de qu'est-ce qui vient de se passer, puis mettons, c'était comment pour toi, puis tu sais, pourquoi est-ce que c'était le fun, qu'est-ce que t'as aimé, mettons, puis que là, après ça, de fil de relation à fil de relation, à amener, mettons, qu'est-ce que t'as moins aimé, qu'est-ce que t'as moins le fun, probablement qu'à amener, t'es capable de vraiment bien les cerner, là, j'imagine.
Oui. Puis ça, on avait parlé dans le dernier podcast du Pillow Talk.
Oui.
Puis je pense que tu avais dit que tu faisais ça avec ta copine.
Ouais, 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 absolument.
Puis toi, t'étais comme...
encore un an plus tard.
Ouais, mais c'est tellement important. Puis
oui.
Ça alimente. Puis toi, t'avais dit, ah, c'est ça, t'as ton tableau, je rappelle.
Ouais,
ton
whiteboard. Ouais, ok, ça, oui, ça, ok, ça, on va voir ça.
Ouais.
Mais ouais, à chaque fois, on fait un petit... Et puis, as-tu aimé la sexualité? Puis là, on parle de ce qui vient de se passer.
Comment tu trouves ça? De faire ça? Est-ce que tu as l'impression que ça alimente ta sexualité positivement?
Oui, absolument. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis des fois, c'est comme... Des fois, tu penses que tu connais l'autre, mais il peut avoir encore des surprises un an et demi plus tard. Là, Ah ouais, qui est ça? Ça, more of that? Ça. Puis tu sais, des fois aussi, ça dépend des journées, ça dépend des contextes. Puis c'est ça qu'il faut comme essayer d'apprendre à gauger. Là, je veux dire, il y a des journées que ma blonde, elle aimerait ça, que ça soit vraiment justement très sensuel, tu sais, super en douceur, super, tu sais...
Mais toi, t'as de l'énergie accumulée, là.
Puis, non, mais... des fois, je vais être dans ce mood-là, mais des fois, je vais être dans un autre mood, puis là, c'est juste des fois aussi, tu sais, de se parler de ça. Mais oui, c'est sûr que ça. C'est sûr que ça alimente, puis ça fait qu'on tombe pas dans des. Dans des patterns, dans des routines ou dans des genres de vu qu'on s'en parle pas, mais là, il y a quelque chose qui a comme pas été fameux pour un des deux, mais là, on n'a pas parlé, fait que là, on reproduit ça, puis là, on peut tomber dans une genre de... Fait que c'est de le casser tout de suite, en fait, d'en parler à chaque fois, ça fait qu'il n'y a pas de mauvais pli, mettons, qui se crée, là, tu sais.
Oui, exactement, puis j'ai l'impression qu'on a plus de facilité à le faire quand c'est plaisant.
Mais oui,
ah c'est ouais, ça. C'était bon ça, c'était bon ça, c'était bon ça, puis quand c'est comme push, comment tu dis à quelqu'un que t'as moins aimé ça? Comment tu sais, c'est plus difficile à partager avec l'autre, mais je pense que c'est un mal nécessaire pour tout le monde. Là.
Mm-hmm.
Ouais. Tu sais, comme on l'a dit tantôt, c'est gênant de faire quelque chose que l'autre aime pas puis que tu le sais pas. Tu sais, c'est poche. Je dis gênant, mais tu sais, c'est comme... C'est plate.
C'est pas le fun, ouais.
Non, t'es là pour avoir du plaisir, pour partager quelque chose, tu sais. Mm-hmm. Fait que, puis ça, moi, je le répète tout le temps, là, je veux dire, c'est mettre nu... Partager un moment avec quelqu'un en silence.
Ouais.
Tu sais, je te parle pas parler de la pluie puis du beau temps, là. Mais comme, tu te parles pas, puis tu te rhabilles, puis tu vis ta vie, comme ça venait pas de se passer.
Mm-hmm.
Ça, c'est weird.
Ouais, absolument.
Puis on a normalisé ça. Non, tu veux en parler, tu veux communiquer, c'est tellement, ça rend ça tellement enrichissant, tu sais. Puis en plus, ben, tu fais un peu dirty talk.
Mais ouais, en même temps, c'est ça.
Ouais.
Mais oui. Ouais. Mais c'est fou, tu sais. Moi, je le vois, là. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui est mal à l'aise de parler de ça, soit avec ma partenaire ou, tu sais.
Sur un podcast, vu par des dizaines de milliers de personnes.
Sur un podcast ou, tu sais, avec des amis ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, j'ai plusieurs, là, des couples d'amis, tu sais, qui disent, quand nous autres, on en parle pas vraiment.
Ouais.
On en parle pas vraiment. Puis quand tu leur en parles aussi, tu sais, de un à un, c'est comme tu sens le malaise, là. Tu sens que c'est pas un sujet qui sont confortables à aller, tu sais, puis c'est dommage, là, pareil, parce que c'est une partie d'un couple. Même si, mettons, on se fait pas la sexualité souvent, ça fait partie d'un couple, tu sais, puis... Mais c'est ça, c'est encore super commun, cette espèce de malaise-là, tabou-là, puis j'ai l'impression qu'il y a pas mal de couples, beaucoup de couples qui, comme tu dis là, tu sais, que ça se passe... On n'en parle plus, puis à un moment donné, ça va se repasser, puis comme si c'était une réalité parallèle, tu sais, comme on passe sur pause à nos vies, on fait ça, puis on dépose, puis comme tu dis, c'est comme si ça n'avait jamais existé, là.
Ouais.
Fucking.
C'est weird. Puis tu sais, ça, c'est complètement le reflet du manque d'éducation.
Ouais. Oui,
c'est ça. On n'en parle pas. On n'est pas habitué d'en parler. Donc, pourquoi on en parlerait plus quand on le fait?
Ouais.
C'est juste normal de pas en parler. Puis pourtant, t'as une sexualité, j'ai une sexualité, tout le monde qui nous écoute en a une. Je commence vraiment à avoir une incompréhension par rapport au fait qu'on n'est pas capable d'en parler.
Mm-hmm.
Puis peut-être parce que c'est parce que je baigne trop dedans, parce que c'est mon quotidien. Mais c'est tellement libérateur. Puis encore une fois, on est programmé pour le plaisir, on est programmé pour aimer ça. Pourquoi on fait du sexe finalement?
Mm-hmm.
Si c'est pas pour combler une pulsion, combler un désir, avoir du plaisir. Fait que pour moi, c'est essentiel. Il faut que la communication soit là si on veut avoir du plaisir.
J'ai vraiment l'impression que c'est dans l'éducation, tu sais, puis mettons, moi, chez nous, on ne parlait jamais de sexualité, là, genre pas, c'est jamais venu sur le sujet, tu sais, puis inversement, mettons, là, je vois, parce qu'on en parle plus grâce à des personnes comme toi, grâce à sexe oral, mettons, ou est-ce que c'est plus dans la culture d'en entendre parler, tu sais, moi, juste ma sœur, elle a des discussions, tu sais, avec ses enfants qui sont encore jeunes, là, tu sais, par rapport à la sexualité, puis, tu sais, dernièrement, il y a un de ces petits qui a passé comme 30 minutes sur le bidet. Là. Ils ont comme un bidet, puis comme il a pogné un 2 minutes en se lançant le bidet dans l'anus, puis ou sur l'anus, plus, peut-être plus que dans l'anus, mais puis là, tu sais, la discussion, c'était pas genre « Hey, fais pas ça », puis genre « On n'en parle pas, puis on ignore ce qui vient de se passer ». C'était comme ça se peut que ce soit le fun, mais comme essaie de faire ça dans des moments propices à ça, là, dans ta chambre, puis tu sais, déjà ça... J'imagine que si quand t'es petit, tu sais pas, genre, va te cacher, puis genre, pour aller te masturber, c'est genre, tu barres toutes les portes, puis là, t'es comme super nerveux de te faire pogner, puis j'imagine que ça va aider
à démocratiser les conversations autour de la sexualité.
Puis après ça, tu sais, t'en parles pas à maison, t'arrives à l'école, on n'en parle pas vraiment à part justement à dire mets un condom.
Ouais.
Puis c'est ça. Puis c'est fou quand même de penser qu'avant que tu sais, il y avait plus de podcasts ou de pages comme la tienne, c'était comme tout le monde vit ça, mais tout le monde se demande s'ils sont normales, puis tout le monde se demande c'est quoi l'expérience des autres, puis comment ça se passe, puis tout ça, mais qui n'ont pas de réponse. C'est pour ça, on revient au début, c'est comme. C'est pour ça, je pense, l'attrait, puis l'intérêt pour ça, c'est comme enfin, on peut écouter du monde normal ou des professionnels en parler, puis se rendre compte que, comme, OK, ça existe, ça, c'est normal, ça, je suis pas tout seul, non. C'est enfin, en fait.
Oui, puis tu sais, tu parlais du podcast Sexe Oral. C'est tellement. C'est incroyable qu'une personne comme Lisanne Nadeau, qui a une tribune immense, avec la visibilité qu'elle a, qu'on soit capable d'avoir ces discussions-là. Puis le monde capote là, sur ce podcast-là. Là, je veux dire, ce n'est qu'un début. Là.
Ouais.
Puis les gens aiment ça autant parce que. Puis il y a. Parce que. Il n'y a personne qui parle de ces choses-là.
Ouais.
Puis là, enfin, tu entends des gens dire hey, moi, je pense comme ça, puis je fonctionne comme ça, puis ah ouais, toi, tu fonctionnes de même. Puis ils sont différentes, puis ils se challengent à travers leur façon de vivre la sexualité. Puis il y a comme de la place pour que tout le monde puisse se reconnaître.
Mm-hmm.
Puis ça valide, ça normalise, puis les gens ont vraiment besoin de ça. T'sais. Les gens ont. Il y en a qui ont besoin de faire de la consultation one-on-one. Mais comme j'ai mentionné tantôt, c'est l'éducation qui va amener la transformation. Juste d'être renseigné, là, tu viens là, de t'enlever un poids sur les épaules par rapport à des choses que tu pouvais penser que ton corps était pas normal, était ci, était ça. On va tellement s'émanciper à travers l'éducation puis à travers ces discussions-là. Puis ça commence quand t'es jeune.
Ouais. Ah, ouais. J'ai vraiment cette impression-là.
Puis tu sais, j'ai fait une entrevue cette semaine puis on parlait justement de l'utilisation de surnoms là, pour nommer les organes génitaux, là, genre un zizi ou
une graine.
Une noune, ou, t'sais, ouais, une graine. Moi, je suis plus cute, tu sais, t'étais une graine. mais juste ça, ça perpétue le tabou.
Ouais. Moi, je donne un prénom.
Ah ouais, tu donnes un prénom? On peut-tu.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, justement, moi, je me posais cette question-là en plus dernièrement parce que. Pour une raison X ou Y, il va falloir que je parle de ma graine dans un autre contexte. Là. Puis j'essayais de trouver une façon, genre quel mot je vais utiliser pour pouvoir parler. Puis là, j'étais même mal à l'aise avec le mot pénis. Genre.
Ouais.
Dire le mot pénis, j'étais comme, je suis pas sûr que c'est le bon mot, mais en même temps, je vais-tu dire ma queue?
Mon comme... chaf.
C'est, bon, c'est comme ça, pas de bon sens. Là.
J'ai entendu ma mère dire le mot pénis l'autre jour, ça m'a mis tellement mal à l'aise. À cause que mon neveu, il fallait qu'il se mette une petite crème parce qu'il avait genre une petite infection au pénis. Puis là genre, ma mère, elle me dit hey, « Je vais aller mettre la petite crème sur le pénis à Hubert, je reviens. » Je suis comme « Ah! Non! Tu peux pas prononcer ce mot-là! Je veux pas l'entendre. »
Ça, c'est comment dire qu'elle le dit souvent quand t'étais plus jeune.
Ouais,
pour que ça te mette, pour que ça te choque à ce point-là.
Elle a arrêté de le dire au moment que j'ai commencé à former des mémoires. Passé 3 ans, elle arrête de le dire.
Où est-ce qu'elle arrêtait de mettre des petites crèmes sur ton pénis?
Elle te laissait faire, mais qu'elle s'est dit, gamin, il va s'arranger avec son vocabulaire. Ouais. Mais non, puis je veux dire, un poumon, c'est un poumon. Un coude, c'est un coude. Un nez, c'est un nez, tu sais. Mais on est comme. Puis même moi, le mot vulve.
Mm-hmm.
Ouais. Il est pas naturel, hein?
Ça vient pas tout seul, mettons. Mm-hmm. C'est. Manoun,
c'est ça.
Puis c'est difficile des fois pour moi de même le dire. Je fais des capsules vidéo, puis même moi, je suis comme ta vulve. il y a comme un petit. Tu sais, puis j'essaie que. Ouais, dis-le parce que c'est ça le mot. Puis c'est, on est vraiment. Puis inconsciemment, ce que ça fait, c'est ça. C'est ça perpétue des tabous. Tu sais, il y a un tabou qui persiste, puis on dit pas les vraies affaires parce qu'il faut pas les dire. Puis après ça, comment veux-tu avoir des conversations sur ce qui te fait plaisir?
Ben non, c'est ça.
Puis, j'ai fait des vidéos sur TikTok récemment, puis ça s'est
répandu comme du feu.
Oui, mais en fait, j'ai demandé dans une vidéo, c'est quoi ton plus grand turn-off sexuel?
Mm-hmm.
OK.
Je t'ai eu une trollée de réponses. Là, il y avait du monde, là, ça commentait. Puis, il y avait du monde qui parlait, puis pas de problème. J'ai fait le même exercice pour les turn-on, les niaiseries que j'ai reçues. Style prendre un bain dans le Pepto-Bismol en se coupant les ongles d'orteil. des conneries,
Ah, ouais.
Le monde mal à l'aise de dire leur turn-on.
Pas capable.
Ouais.
on n'est pas capable d'assumer qu'on a du plaisir dans cette partie-là de notre vie. Puis d'un autre côté, on se vante de nos exploits. Puis là, on se compare avec les exploits des autres qui ont l'air d'être meilleurs que les nôtres. Puis, mais réellement, on n'est pas capable. Tu sais, c'est dur d'être assis là, l'un devant l'autre puis se dire « ça, ça me fait vraiment plaisir. Puis ça, ça m'excite vraiment. Mm-hmm. » C'est dur.
Mais oui. Mais en même temps, tu sais, mettons que tu veux avoir une sexualité épanouie avec ton ta partenaire, il me semble que c'est plus facile de dire qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est pas le fun. C'est plus facile de faire du renforcement positif. Puis du moins, moi, je pense que c'est plus efficace aussi de dire « Hey, quand tu fais ça, j'aime vraiment ça. » Plus que « Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. » Essayer d'amener le chemin, la direction vers les trucs qui sont le fun plutôt que de dire qu'est-ce qui est pas le fun.
Ben oui.
Même si probablement que des fois, il faut le faire pareil. Là.
T'sais, c'est dur de se faire reprocher des choses. Puis en plus, dans un espace où tu te sens peut-être un peu responsable aussi du plaisir que t'offres à l'autre personne. Fait que là, de te faire reprocher que c'est pas ça que t'es en train de faire, c'est toujours un peu difficile à recevoir.
Ouais.
Fait que renforcement positif, je pense que c'est vraiment la chose à faire. Puis d'avoir des discussions d'emblée. Tu sais, quand on date, là, on devrait en parler de la sexualité. Ouais. Là. Tu sais, comment tu vois ça, toi? C'est quoi l'éducation? Juste avec des questions simples comme ça. C'est quoi l'éducation que tu as reçue? Ah, ben moi, souvent, on n'en parlait pas à la maison. T'es-tu ouvert à en parler? Mm-hmm. Est-ce que t'es ouvert à ce qu'on ait des conversations sur le sujet? Oui, non. Puis là, on est capable de voir, est-ce qu'on va être capable d'explorer ça avec l'autre personne?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Toi, avec ta fréquentation, t'as-tu... n'avez-vous parlé avant que ça se passe?
Non, pas avant que ça se passe. Après, oui, mais après, pas avant que ça se passe.
C'est comme un coup de chance, finalement.
Ben, c'est ça. C'est comme un... Ouais. Genre. Ouais. Mais aussi, peut-être que... OK, je pose une question, je réfléchis à votre. Puis je te pose la question. Est-ce que les schémas, mettons, peuvent aussi quand même être indiqués par la personnalité de la personne? Ouais. Parce que, mettons, c'est arrivé, on a eu une relation sexuelle, puis là, j'ai fait « Ah, OK, Chris... » pile sur le même schéma, mais en même temps, j'étais pas surpris que ce soit le même schéma parce que il y avait beaucoup d'affaires qui s'enlignaient dans comme nos personnalités puis comment on était par rapport à X ou Y affaires, tu sais, fait que j'étais pas genre quoi, genre c'est, ça marche bien, c'était comme ça allait de soi un peu là, je trouve.
Ouais. 100%, il y a du vocabulaire qu'on va utiliser selon nos différents schémas. Ça peut être même ta façon, ton attitude, ta façon de t'habiller. Donc oui, il y a des indicateurs. Je suis quand même bonne pour lire les schémas.
Tu serais capable de voir, mettons, ben pas 100% du temps, mais mettons, tu regardes quelqu'un et tu fais genre, ouais, à voir comment tu fonctionnes, mettons, t'es pas mal plus, je pense que t'es dans ce schéma-là.
Ouais.
C'est ça.
Puis je me trompe rarement. Je vais te poser une couple de questions, là, puis je vais être comme, t'es ça.
Mm-hmm. Puis là, c'est quoi nos schémas?
J'ai pas assez de détails sur vous, mais le fait que t'en parles avec... plus c'est vraiment du gros n'importe quoi que je suis en train de faire. Mm-hmm. Le fait que t'en parles, que t'aies cette ouverture-là, tu dois être proche du sensuel. Tu dois être proche du sensuel. Je suis pas mal certaine.
OK.
Peut-être que je me trompe. Je te dirais sensuel, sexuel. Ouais. Puis t'as une grande ouverture aussi, parce que je me rappelle qu'on avait parlé de prostate la dernière fois.
Absolument.
Absolument.
Puis d'ailleurs. Ouais. Non, vas-y, écoute.
D'ailleurs.
T'ouvres une porte, là.
Oui, quoi?
D'ailleurs, j'ai écouté ça tantôt en courant ce matin. Puis je pense qu'on avait parlé de ça dans les premiers 4 minutes du podcast, genre que... Moi, ma blonde, on avait fait une petite commande chez Ross & Compagnie, de bot plug. Puis là, vous étiez là, pour toi? J'étais là, non, pas pour moi.
Mais finalement, les bot plugs ont servi? Pour toi?
un petit, là. Pas le plus gros, parce que je suis pas rendu là. Un petit.
Un an plus tard, man.
T'avais un petit côté kinky aussi.
Je pense que j'ai un petit côté kinky.
Kinky sensuel, dans le fond. Kinky sensuel. Parce que t'as l'air de quelqu'un qui aime ça explorer des affaires, puis t'as quand même l'air d'avoir une certaine douceur dans qu'est-ce que tu fais. Mais tu sais, c'est full du jugement là, que je lance en ce moment parce qu'on n'a pas eu assez de conversations pour que je sois capable de déceler.
Moi, je pense qu'il faut que je travaille sur ma douceur.
OK.
Ouais.
OK.
Je pense que je suis relativement en mode... Je tombe en mode performance quand même.
Ah ouais?
Je tombe en mode... peut-être créer des scripts, là,
ouais.
des scripts sexuels, puis définitivement un petit côté kinky, mais je pense que ouais, je pense qu'il faut que je travaille ma douceur. Je pense que je suis plus sexuel que sensuel, mais je pense qu'il faudrait que j'atteigne le métamorphe. Pour justement, quand que
ben, moi, je pense qu'il t'en manque pas beaucoup pour atteindre le métamorphe. Là.
Ben, avec l'ouverture que t'as, ouais.
Moi, ça... je pense que t'es proche de métamorphe, hein, si tu l'es pas déjà. Là.
Ouais, puis tu vois, j'ai dit sexuel, sensuel, après ça, je suis allée dans le kinky. 4, là, ouais. Puis c'est peut-être parce qu'énergie que t'as peut-être jamais essayé ça. Tu sais, je sais pas. Mais ouais, peut-être que t'es métamorphe, mais que t'es tellement conditionné à recréer des scripts que tu te laisses pas vraiment être toi-même dans ta sexualité.
Tu sais, toi, t'aurais-tu été capable de te laisser aller, mettons, à parce qu'on a mis ça sur la glace tantôt, mais à OD, quand on a, nous, en fait, ils appelaient ça du yoga mandala, ou est-ce qu'il fallait Puis, tu sais, il y avait du monde qui était capable de se laisser aller crissement, on l'a constaté, là. Mais moi, j'étais zéro, là.
Ben, tu t'es quand même rendu, t'as quand même versé une petite larme, là. Fait que, tu sais, t'as quand même, t'as quand même eu l'ouverture que ça te touche pareil. Là,
Mais comme c'était loin fermé. D'être dans la sexualité, là, tu sais.
Ah ouais. Mais ouais. Mais c'était vraiment un orgasme. C'était pas juste comme une espèce de.
C'était un orgasme.
C'était un orgasme.
Ouais.
OK. La semaine prochaine, je m'en vais dans une retraite de méditation qui s'appelle Vipassana. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler.
Ouais,
OK. Ça va être ma troisième fois que j'y vais.
Puis ça, c'est 7 jours, c'est ça?
C'est 10 jours.
10 jours dans le silence.
Dans le silence.
Ouais, ouais. C'est la troisième fois que tu vas faire ça?
Oui.
Puis c'est, mettons, c'est des longues journées de méditation, là.
Interminable, oui.
Combien d'heures? Ouais, vas-y.
Tu te lèves à 4 heures du matin, tu te couches à 9 heures le soir. Là-dedans, tu as environ une dizaine d'heures de méditation. Puis dans tes pauses, tu fais rien. Tu fais juste être. T'as pas le droit de lire, t'as pas le droit d'écrire.
T'as pas de téléphone.
T'as pas de téléphone, t'as pas le droit de parler là-bas, c'est vraiment le silence noble. T'as même pas le droit de faire des eye contact. Là. Mm-hmm. T'es dans ta bulle, tu fais juste être. C'est interminable.
Tu fais ça?
Ouais.
C'est la troisième fois que tu le fais?
Ouais. Puis là, je l'appréhende là, parce que je suis dans une tornade en ce moment avec mon entreprise, tout ça. Puis je sais pas si je vais être capable de rester les 10 jours parce que c'est tellement tough. Là.
Ouais. C'est sûr que c'est tough.
Ouais.
Est-ce que. Mais ça, je suis vraiment curieux.
Ouais.
T'as-tu des breakdowns quand t'es là-bas, mettons?
Ah ouais, pour vrai, là.
C'est sûr.
À pleurer pour aucune raison.
Ou rire.
Ou rire,
non? Ou rire, ouais. Il y a des journées, là, puis on est en silence, mais on a des halls de méditation, dans le fond, puis t'es assis, t'as des voisins de. T'as des meditation mats, là. T'as des mats, là, de méditation, puis t'as le tien qui est assigné. Fait que t'es pendant 10 jours à côté des mêmes personnes, puis tu viens tellement sensible à ton environnement que tu sais quand l'autre personne à côté de toi ne file pas cette journée-là. Puis tu essaies d'y envoyer là, comme de l'encouragement énergétique. Là, ça se dit
sans
pas.
Sans même
là, mais...
se parler ou à peine se regarder.
Oui. On brise le silence une journée avant de sortir du centre parce que là, il faut comme revenir tranquillement. Puis, tu sais, on est capable de se le dire, « Hey, la journée numéro 7, là, je te voyais, là, t'étais pas dedans pantoute. » Puis là, tu reviens le lendemain, puis là, ils sont assis sur leur matelas à 4 heures du matin, puis t'es comme, « Yes, let's go les girls. » Puis là, tu t'assois là, à côté, là, puis t'es dedans. Là. Moi, je me rappelle, tu t'es levé à 4 heures du matin, c'est inhumain d'aller méditer. T'es là, tu cognes des clous comme sans bon sens. Puis je me rappelle, là, j'étais comme, « OK, si les filles sont là, là, j'y vais, puis je le fais pendant 2 heures. » Puis là, j'arrivais, puis ils étaient là. J'étais comme, « Yes, yes. » Tu crées comme une espèce de... Puis il me disait la même chose. Quand je voyais que vous étiez là, on était comme 3 sur la ligne. Puis c'est drôle parce que ça avait donné que la fille, c'était sa fête en même temps que moi. On avait la même âge.
C'est pas ta fête comme aujourd'hui? Genre?
Hier.
Fête.
Merci. C'est vraiment une expérience incroyable. Puis quand je suis allée là la première fois, j'étais en peine d'amour. Puis quand t'es là-bas, t'apprends à juste observer les sensations dans ton corps et à ne pas leur donner de caractéristiques ou d'importance ou de valeur quelconque.
C'est juste observer.
T'observes.
Ouais.
Puis c'est vrai, tu sais, quand t'es fâché, puis quand t'es, mettons, t'es en amour, puis tu vis de l'excitation, puis que t'es fâché, c'est les mêmes sensations corporelles. Quand tu les décomposes, c'est t'as chaud, t'as le cœur qui bat vite, tu sais, t'as ta respiration qui s'accélère. Que tu sois fâché ou que tu sois comme excité, c'est les mêmes choses. C'est juste notre cerveau qui donne des caractéristiques différentes à ce qu'on ressent. Fait que là-bas, t'apprends à observer. C'était super difficile parce que j'étais vraiment blessée. Là, puis ça fait, je pense que ça fait comme 5 ans de ça, ma première fois, ou 4 ans. Puis je suis venue là, tellement fâchée après la technique parce que j'étais comme, je peux pas ressentir d'amour finalement. Tu sais, je peux pas. Puis c'est là que j'ai appris que l'amour, c'est pas de la passion, mais c'est bien de la compassion. C'est tellement différent comme, comme, comme sentiment. Puis, je me suis vraiment prêtée au jeu. Puis, je l'ai vraiment bien fait mes 10 jours. Puis, à la 8e journée, tout ça pour vous dire, finalement, qu'à la 8e journée, j'étais assise là. Puis, j'ai vraiment réussi à... Tu sais, quand on dit « laisse monter ta pensée puis laisse-la passer », je maîtrise ça à fond la caisse. T'as 3 heures dans la journée, 3 fois 1 heure où tu t'assois puis t'as pas le droit de bouger. Fait que ça te pique, tu te grattes pas, là. T'as mal à quelque part, tu bouges pas, tu restes là puis t'observes la sensation.
Ta voix arrivée, ta voix partir.
Ta voix arrivée, ta voix partir. Ouais. Tu la juges pas, tu fais des scans corporels.
Ouais.
Puis j'étais dans un scan corporel, puis là, ça allait bien. Puis j'ai eu un orgasme énergétique. Puis je savais pas que ça existait, puis je savais pas que j'allais vivre ça. J'avais aucune idée de ce que je m'en allais vivre quand je suis rentrée là-bas. Puis c'est comme... Je peux même pas croire que je dis ça, là. J'ai vécu un orgasme énergétique, là. C'est comme ton corps au complet vibre. C'est pas tes organes génitaux, c'est juste comme un sentiment de... Je sais pas, t'es tellement en pleine conscience, avec t'es tellement connecté avec l'environnement puis l'énergie autour de toi, que c'est comme ça vibre, là. Puis it just feels good, là.
Ouais.
Fait que j'y crois.
Puis c'est-tu quelque chose que tu as réussi à garder, mettons, hein, dans ta vie, après, dans tes pratiques, genre? Ou ça a été un one-shot, puis c'est arrivé là, puis c'était comme, OK, what the fuck?
L'orgasme énergétique? Ouais. Je sais comment me rendre là. Okay. Tu sais, je vais pas l'amener dans mes rapports sexuels, mais mettons que je suis dans une méditation, je sais comment faire bouger l'énergie dans mon corps, mais tu sais, c'est dans ma tête, là. Je fais juste faire des flows corporels, ouais, là. Je sais comment me rendre là. Mais il faut que je sois prédisposée. Faut pas que ma tête soit trop occupée. Faut pas. Tu sais, tu fais pas juste t'asseoir là, puis après 1 heure, t'as un orgasme énergétique. Ça m'a pris 8 jours. Ça faisait 80 heures de méditation que je faisais, là. Non-stop, à pas parler à personne, puis avoir aucune distraction, là, t'sais.
Est-ce que les journées sont de plus en. Tu sais, là, on s'éloigne du sujet de la sexualité, mais c'est pas grave, parce que c'est super intéressant. Est-ce que les journées sont de plus en plus difficiles, ou à un moment donné, c'est de plus en plus facile, ça passe de plus en plus vite?
Sérieux, là. C'est interminable, là. C'est à chaque seconde de ma vie que je suis là-bas, j'ai envie de m'en aller, puis je me demande pourquoi je suis là. Puis je me rappelle la première fois, je suis allée voir. Tu as le droit de poser une question le midi. Okay. Puis je suis allée voir mon enseignante, puis j'avais dit, y a-tu un moment où ça va se mettre à passer plus vite, là? Comme.
Ouais.
Non.
Non.
Ouais. Notre ami Phil, lui, il est allé en Thaïlande, puis il a fait un genre de 28 jours là, dans un affaire de même. Puis il dit, lui, de son expérience, mettons, là, après, au 14e jour, il y a eu comme un breakdown ultime, là, où est-ce qu'il a comme, s'est mis à pleurer, puis genre incontrôlablement pendant la journée au complet. Puis une fois qu'il a passé ce 14 jours-là, mettons, puis que la journée vraiment, vraiment complètement insane était derrière lui. Genre. Il disait qu'il était capable de s'installer, mettons, dans sa chambre. Là. Puis là, il s'assisait sur le sol. Puis il disait qu'il était capable de se voir comme s'il était dans le coin de la pièce. Puis il se voyait de même. Puis il dit après ça, jusqu'à la fin, là, ça a comme passé, là, les jours passaient, genre, puis ça allait, tu sais.
C'est parce qu'au début, on n'est tellement pas habitué de juste être.
Ouais, c'est ça.
Que tu te combats contre ta programmation qui est intuitive, là. C'est intuitif pour nous de faire.
Ouais. Quand on est juste... Quand on est dans le moment qu'on est juste des humains, là. On est assis, on attend quelque chose. Ben là, c'est comme que ça me prend une distraction.
Exact, pour c'est self, ça.
Ouais.
On n'est jamais confronté à être juste comme avec nous-mêmes puis rien faire, là. C'est comme extrêmement rare.
Des kicks de dopamine. Puis quand je suis là-bas, là, je suis tout le temps en train de... Je veux voir mon cellulaire. Je suis tout le temps en train de le chercher, mais je ne l'ai pas parce que tu le donnes à l'entrée.
Ouais.
C'est horrible comment qu'on est comme addict, là.
C'est fou, hein?
Fou raide, pour vrai. À chaque fois, puis je vais le faire, là. Je vais chercher mon téléphone. Ouais. Je sais que ça va m'arriver, là. Je vais virer. Oui. J'ai peur de pas le toffer cette fois-là,
t'sais. Ça, c'est la plus grande dépendance collective qu'on a, puis qu'on s'en rend même pas compte, mais on est tous addicts.
C'est la plus grosse merde, ça.
À la technologie, puis à nos selles. C'est fou. Puis c'est moi, c'est souvent en voyage que comme... Je me donne une règle de comme pas de sel, là.
Ouais.
Puis ça prend une couple de jours à genre comme filer bien. Mais après, quand tu passes ces couple de jours-là, c'est comme je suis donc bien.
Ouais.
Puis le temps, la perception du temps, on dirait que le temps passe comme plus lentement, mais d'une bonne manière. Dans le sens que tu vis plus tous les moments plutôt que tu regardes ton sel, tu peux le regarder, puis tu as l'impression que tu peux le regarder 5 minutes, mais tu peux le regarder 30 minutes.
Ouais.
Ça, c'est vraiment quelque chose. Mais puis justement, j'imagine que. En sortant d'une affaire de même, toutes ces addictions-là que tu n'as pas le choix de de te défaire, t'es pas mal plus... Maintenant, quand tu prends ton sel ou en sortant de là, j'imagine que là, t'es conscient que tu prends ton sel. C'est pas juste une espèce d'affaire...
T'essaies de le garder le plus longtemps possible, ce feeling-là, tu sais, ben avant de retomber dans...
C'est sûr qu'à un moment donné, j'imagine que ça se dissipe.
Je crois que tu y retournes une troisième fois.
Ouais. Non, mais j'y retourne parce que je suis vraiment dans un tourbillon en ce moment avec le travail, puis je suis sollicitée constamment. Puis je sens juste que j'ai besoin de me déposer. Mm-hmm. Puis je le ferai pas. Tu sais, je suis allée au Costa Rica pendant l'hiver pour essayer de faire ça. Finalement, j'ai travaillé tout le long que j'étais là-bas. Fait que là, je me suis dit, OK, j'y vais, je le fais. Je sais pas si je vais être capable. Mm-hmm. Je me le souhaite. Parce que oui, quand tu sors de là, tu fais les choses tellement plus consciemment. Mm-hmm. Première fois que je l'ai fait, moi, c'était à Boston, au Massachusetts.
Okay.
Puis j'avais un 6 heures de route à faire. Puis j'osais même pas mettre la radio, là. Tellement que j'avais besoin de ce calme-là.
D'être sans stimuli, juste avec toi-même.
Puis quand on brise le silence, là, l'avant-dernière journée, là, c'est comme...
Tu parles donc bien fort!
On va tous se cacher dans nos chambres.
Ah ouais, c'est ça.
Oh, là, t'es comme, oh mon Dieu, faut que je parle avec du monde, Tu sais, ce qui semblait si dur, difficile de pas faire, mm-hmm. Là, c'est rendu, oh mon Dieu, faut que je parle avec du monde. Là, t'es comme...
C'est la norme.
Allô, là, tu viens de sortir d'un 10 jours avec toi-même qui... Fait que, tu sais, des gens qui vont écouter ça vont faire « C'est vraiment spécial. » Mais non, dans le fond, c'est une date avec moi-même que je m'en vais faire. Tout simplement, tu sais. Fait que, tout ça pour dire que les orgasmes énergétiques, j'en ai vécu un, je sais c'est quoi. Puis je m'attendais pas à ça.
Ouais.
Probablement que, tu sais, Audi, il s'attendait pas à ça non plus.
Non, je pense que ça a surpris tout le monde. Ça a fait un grand moment de télévision. Ouais.
Ça a fait un moment qui a marqué les esprits, là, qui a marqué.
Ça recommençait, tu sais. Genre, ça recommençait, télé, c'était genre l'épisode 4.
Ouais.
Ça arrive, genre.
Ouais.
Ça a comme fait, OK, il se passe de quoi à cette émission-là, là?
Ouais. Ouais. On a toute la scène dans notre tête, là, qui sont assis à terre en deux par deux. Puis... Mais tant mieux parce que.
Mais oui, mais ça.
Ça ouvre. Il y a des gens qui ont normalisé leurs expériences en voyant ça, puis qu'il y a plein de monde qui n'en parle pas, qui vivent ce genre d'orgasme-là. Il y a du monde qui vont trouver vraiment space d'avoir dit ça aujourd'hui, là, tu sais. Mais je veux dire, je ne l'ai même pas cherché, je l'ai vécu, tu sais.
C'est ça. Exact.
Puis ça se développe. Fait que c'est ça qui est positif là-dedans. Puis il y a des gens qui vont dire « Ah, peut-être que c'est moi. » C'est vrai, quand quelqu'un s'approche vite, je me sens vite impactée. Je suis très sensible aux énergies des autres. Donc, c'est ça.
Ça se peut.
Ça se peut. C'est possible. Tout est possible.
On a parlé rapidement tantôt de plaisir prostatique. Anna. Puis j'ai vu que, les schémas, tu as donné une espèce d'atelier, conférence sur les schémas, puis il y avait plusieurs sujets, puis tu en as fait un sur le sexe anal, je pense.
Oui, il y en a un qui s'en vient.
Fait, moi, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait, à dire pendant 2 heures et demie.
Beaucoup de choses. Est-ce que tu savais, là, c'est comme, tu sais, l'engagement là, sur Instagram, tu le vois là, quand il y a les sujets, ils sont. Ils piquent une curiosité.
Quand tu parles de sexe anal, c'est comme ça. Mais juste sexe oral aussi, je pense, l'épisode sur l'anal, je pense qu'encore à ce jour, c'est un des plus écoutés, si c'est pas le plus écouté.
Eros et compagnie avaient sold out tous leurs bot plugs après cet épisode-là.
C'est vrai. Ouais.
Comme de quoi il y a de la curiosité.
Mais j'imagine c'est le tabou aussi, là. Comme on dit, le tabou est excitant.
Ben oui, puis tout le monde veut savoir, comme, y a-tu vraiment du plaisir à cet endroit-là?
Mm-hmm. Ouais.
Parce que là, on voit ça hein, dans la porno. Fait que là, on se dit, crème, je vais pas être normal, moi, j'aime pas ça. Ou, tu sais. Fait que, il y a beaucoup de plaisir qui se développe. Encore une fois, on revient à. Tu vas avoir une sexualité extraordinaire, prends le temps de t'explorer. Prends le temps de découvrir ton plaisir anal. Prends le temps d'en avoir des orgasmes énergétiques. Ça m'a pris 8 jours, 80 heures de méditation. T'sais, fait que ça n'arrivera pas. Tu t'assois, plus tu penses que tu ressens des affaires parce que c'est la première fois que tu l'essayes. T'sais.
Ouais.
Fait que l'anus, le rectum, c'est un endroit où il y a des milliers de terminaisons nerveuses.
Mm-hmm.
Pourquoi pas avoir du plaisir en activant ces terminaisons nerveuses-là?
Ouais.
Donc, il y a un très, très grand potentiel. Puis je me rappelle, j'avais un prof à l'Uni qui avait dit dans un cours... peu importe, même au niveau du vagin. Parce que le vagin, là, ça va être pertinent. Là, le vagin, il est comme séparé en trois parties. Puis c'est vraiment le premier tiers du vagin qui ressent réellement le plaisir. Puis le deux tiers qui suit va plus ressentir comme la propension puis la douleur.
Mm-hmm. Ouais.
Mais tu peux le travailler. Puis c'est ça que Joannie a fait. à travail, le point G. Mm-hmm. Découvrez votre point G. Tu sais, entre vous puis moi, le point G, il n'existe pas. Là.
Mm-hmm.
Okay? Il n'existe pas, c'est prouvé. Il n'y a pas de point dans le vagin. Là. Si tu cherches, tu es chez vous puis tu cherches ton point, là, il n'y en a pas de point.
Mais ça fait pas référence à la partie interne du clitoris?
Oui. Ouais,
okay.
C'est que tu stimules indirectement le clitoris mm-hmm. qui s'appose de chaque côté de l'entrée du vagin.
Mm-hmm.
Donc, pour ça que le premier tiers du vagin, c'est la partie sensible.
Mm-hmm.
Puis, il faut prendre le temps de tu sais, elle, sa trousse, là, c'est ça, là, c'est, il y a des étapes. Là.
Ouais. Ouais.
Puis, tu sais, c'est pas les étapes avant qui fait que tu ressens plus quand tu te stimules. C'est le fait que tu t'arrêtes pour prendre un moment avec toi.
Prendre conscience de ça.
Exactement. Mm-hmm. Tu sais, c'est du tantrisme, là, sa trousse, là. Mm-hmm. On s'entend, là.
Mm-hmm.
C'est le ton verre de vin, c'est l'odeur dans ta pièce avec ta chandelle, c'est ton bain chaud, c'est son J-pop, tu sais, c'est... Fait que ça se développe, ces sensations-là, tout comme le plaisir anal peut se développer. Il y a des terminaisons nerveuses, donc il y a du potentiel pour avoir du plaisir. C'est un spectre, hein? Douleur, plaisir, mm-hmm. là. Oui, mm-hmm. ça peut faire mal.
La ligne est mince.
Et voilà, la ligne est mince pour certaines personnes. Mais il y a des gens qui me disent, ben, y a-tu moyen que ça fasse pas mal? Puis ça, il faut vraiment être clair là-dessus. Si ça vous fait mal... ton corps t'envoie un signal.
Ouais, ouais, c'est ça, exact.
T'arrêtes, là.
Oh, ouais, c'est ça.
Oh, ouais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, il faut y aller. Tu y vas pas comme straight pipe de même
straight
sans,
pipe.
Sans préparation, sans lubrification, sans rien.
Ben non. Puis tu sais, c'est illusoire de penser ouais. que ça va être plaisant, là. Il y a des étapes, là, tu sais, puis... Que ça soit de commencer à stimuler... tu sais, il y a des gens qui, un doigt, ça les dérange, commence avec les jointures de ta main. Juste s'habituer à mm-hmm. recevoir une stimulation au niveau ouais. de l'anus.
Ouais.
Parce que t'es pas habitué à recevoir une stimulation. Tu ressens quand tu vas à la selle.
Ouais.
Mais de se faire toucher à cet endroit-là, c'est comme... Au mm-hmm. début, t'es comme pas sûr. T'es comme, qu'est-ce que ouais. je ressens là? C'est différent. Comme, fait que tu veux juste habituer ton corps à ces sensations-là. Tu commences par l'extérieur. Quelquefois, une fois que tu t'es habitué à ça, là, tu peux commencer à explorer à l'intérieur. Mais les gens, ils veulent tout de suite y aller avec la pénétration.
Mm-hmm.
Ça prend du temps, là.
Wow. Ouais.
Faut que tu habitues ton corps.
Puis, comme il y a... Est-ce que, mettons, la partie interne du clitoris est stimulée, peut être stimulée par le sexe anal ou c'est pas vraiment les clitoris qui sont stimulés?
C'est tout relié. Tu sais, à la fin de la journée, là, c'est comme, ouais. tu sais, ton plancher pelvien, c'est lui qui est activé lors de l'orgasme. Donc, c'est sûr qu'il y a des stimulations qui vont peser sur ta vessie. Après ça, la vessie pèse sur le clitoris, etc. Donc, oui, c'est possible d'avoir un orgasme au niveau anal. Il y a plusieurs points d'orgasme aussi dans le corps humain. Encore une fois, je l'ai mentionné tantôt,
mm-hmm.
c'est pas juste les organes génitaux qui donnent des mm-hmm. orgasmes. Donc, pas juste le clitoris. Oui, il est responsable de l'orgaste et de l'orgasme.
Ouais.
Mais il y a plusieurs points dans le corps qui peuvent amener du plaisir. Puis, tu as des milliers de terminaisons nerveuses.
Ouais.
Donc, effectivement... de stimuler ces terminaisons nerveuses-là de la bonne façon peut amener à vraiment beaucoup de plaisir.
Mm-hmm. Je sais que ma blonde, quand elle... Tu sais, elle m'a déjà dit, tu sais, quand, que, mettons, il y a du sexe anal, qu'elle aime pas, en général, le sexe anal dans la porn, mettons, là,
ouais.
d'en voir, parce que c'est quand même rare, souvent, mettons, que la fille va se stimuler, va se toucher en même temps, tu sais, mettons. Fait que là, t'as juste... Puis pour elle, elle dit, moi, juste voir, tu sais, juste une pénétration anale, sans stimulation du clitoris, pour moi, c'est comme...
C'est un sacrilège.
C'est comme des ongles sur un tableau. Là. C'est comme ah, ça, ouais. ça me fait pas du bien voir ça. Là, t'sais.
Ouais.
Ça, j'imagine que c'est propre à chacun.
Oui, mais t'sais, encore là, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de pornographie lesbienne qui est regardée par des femmes.
Ouais.
Parce que la pénétration, que ce soit anale ou que ce mm-hmm. soit vaginale, je suis la première à regarder...
C'est pas la best affaire. Dans
ben, je regarde ça puis je suis comme... Is ouais. it fun? Ouais. Puis je peux avoir du plaisir dans la vraie vie là, avec la pénétration, mais en le regardant, mm-hmm. tu sais, t'sais, c'est tellement un spectacle là, à crier comme ouais. si ça s'était, je veux dire.
Ouais.
Donc, il y en a qui vont préférer dans la pornographie regarder une stimulation du clitoris que là, t'es comme, OK, là je sais que t'as un orgasme et que t'as du fun pour vrai. Puis mm-hmm. tu vois les contractions aussi du plancher pelvien souvent. Pis, fait que, mais oui, effectivement, t'sais, ça peut être difficile. De regarder de la pénétration. Mm-hmm.
Ouais. Mais j'imagine que pour bien du monde, ça pour dire que s'il y a une stimulation en plus externe, ça peut peut-être aider à genre.
Oui, oui ça, définitivement.
Ça soit le fun.
Mm-hmm.
Définitivement. Puis il y en a justement qui vont être juste capables d'avoir un orgasme interne s'il y a une stimulation externe.
Ouais.
Là, on rentre dans les modes excitatoires. Là. Puis c'est des façons de, d'avoir des orgasmes. Puis des orgasmes. Fait qu'il y a des gens aussi, OK, on, des femmes qui vont faire la position qui sont par-dessus l'homme, là, qui sont sur le dessus. Puis qui vont dire, « Ah, oh, moi, j'ai juste un orgasme quand je suis sur le dessus. » Puis un orgasme interne. Puis finalement, ce que ça démontre dans les modes excitatoires, c'est que tu frottes ton clitoris externe, ce qui fait que tu penses que tu as un orgasme interne. Donc, c'est complexe. C'est complexe, le corps humain, mais c'est ça. Pour avoir vraiment un orgasme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du rocking chair, la position de la bascule, la double bascule.
Non.
Écoute, ils nous mettent ça dans un cours à l'Uni, tu sais, puis là, c'est comme du monde qui font des mouvements de bassin, puis là, ils nous montrent. Ça, c'est le mode excitatoire à privilégier si tu veux atteindre l'orgasme. Puis dans le fond, mettons que tu as une pénétration anale, puis que tu es capable de travailler ton plancher pelvien en même temps, c'est sûr que ça va accentuer ton plaisir, puis potentiel orgasmique également. Parce que c'est ton plancher pelvien, encore une fois, qui est activé quand tu as un orgasme. Donc, la bascule, c'est d'être capable de bouger le bassin de devant, derrière, devant, derrière. Ça fait en sorte que tu as un afflux sanguin plus important dans les organes génitaux. Chez l'homme, on va le voir avec l'érection du pénis. Et chez la femme, ben, c'est une érection du clitoris, mais c'est interne, fait qu'on le voit moins. Et donc, plus tu plus une érection qui est ressentie, plus tu vas ressentir, plus tu vas être réceptif aussi au plaisir, puis au toucher, puis tout ça. Donc, effectivement, quand tu as une pénétration anale puis que tu es capable de faire aller ton plancher pelvien, d'avoir une stimulation autre, tu as l'afflux de sang là, dans les organes génitaux. T'es en business. Là.
Dans Cadillac.
Dans Cadillac, hein.
Quelqu'un qui écoute le podcast puis qui dit « Je veux en savoir plus. Je veux... » Là, il y a 2h30, une formation de 2h30 sur le sexe anal qui semble s'en venir. Là. Ouais. Quelqu'un qui veut s'inscrire, qui veut participer à tes accompagnements, à voir les conférences, voir tes ateliers, qu'est-ce qu'il faut?
C'est où qu'on va? Au lit avec Anne-Marie sur tous les réseaux sociaux. Instagram, c'est vraiment là que ça se passe. Sur TikTok aussi, mais sur Instagram, je suis plus interactive avec, avec mon public.
S'ils veulent aller plus loin, ils peuvent s'inscrire à...
Réponse sexuelle. Donc, si tu veux entendre parler de désir, de communication, que tu veux avoir des trucs pour atteindre l'orgasme, tu veux connaître ton cycle menstruel, etc. On a vraiment passé tous les sujets, puis ça continue. Puis, on a des concours sur cette plateforme-là. On reçoit des expertes qui viennent nous parler des différents sujets. Donc, c'est possible de s'inscrire. C'est au lit avec Anne-Marie.com, le site internet, mais vous pouvez le trouver sur Instagram.
Oui, il va y avoir un lien, j'imagine.
C'est ça.
T'as-tu pensé à ça?
J'ai tout pensé à ça. Pas pire. Hein?
Merci infiniment d'être venu nous parler. C'était vraiment
merci
le fun.
Merci de m'avoir reçu à nouveau.
Yes.
Super cool. À dans un an, sûrement.
Oui, oui, à dans un an.
Pourquoi pas? C'était du contenu excellent.
Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$?
Ouais, 3$ par mois.
3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir...
Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres.
Tu veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète.
Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast, on va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant, il est encore moins de filtres, il travaille à place. De temps en temps, il est là, mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner.
Abonnez-vous.